Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à l'espace Mendès France. Alors merci d'accepter de mener avec nous cette expérience qui va durer une dizaine de jours, puisqu'à l'occasion des 30 ans de l'espace Mendès France, nous avons souhaité explorer la notion du rêve. Alors je crois que vous avez envie de rêver, puisque hier soir on a rêvé autour d'un magnifique spectacle. L'établissement était bondé. Ce soir, vous êtes venus nombreux pour partager, puisque cette salle est avant tout une salle de partage. Alors les 30 ans de l'espace Mendès France, c'est une histoire qui a été racontée par déjà pas mal de gens. Dans quelques jours, on a un ami qui s'appelle Edgar Morin qui viendra nous rappeler que nous, humains, nous sommes des êtres sûrement biologiques, mais aussi des êtres sociaux, des êtres politiques, des êtres culturels, et que rêver transverse et travaille toutes ces dimensions. Alors ce soir, on a la chance d'avoir deux éminents intervenants qui interviennent sur des champs complémentaires, parfois contradictoires, mais dont les discussions sur tout ce qui relève des neurosciences, de la psychanalyse, de la psychiatrie, toutes ces notions s'entrechoquent dans ce qui se passe en ce moment dans nos sociétés contemporaines. La question du rêve, elle est aussi pour nous importante. Michel Brunet, paléontologue au Collège de France, qui est vice-président de cette maison, nous a rappelé dans un récent article de la revue L'Actualité Nouvelle-Aquitaine, dont le rédacteur en chef est là, Jean-Luc Terradillos, merci, que la science était du rêve et que c'était une matière première importante pour les scientifiques. Le rêve est un préalable, est une préfiguration d'un certain nombre de choses, et le rêve permet de se projeter dans le réel, mais également dans l'avenir. La science, c'est du rêve, nous dit-il, mais sous le mot rêve, il y a beaucoup de choses. Donc ce soir, on va commencer ce cycle qui nous emmènera à Lusignan dans quelques jours. On parlera d'histoire qui nous permettra également de parler de politique, parce que le rêve et les utopies ont permis de faire bouger nos sociétés. Alors ce soir, on a... Ah oui, après, on en parle. D'ailleurs, j'étais avec des Brésiliens tout à l'heure et je leur disais, vous avez un beau pays. Ils ont levé les yeux au ciel. Nous en parlerons la semaine prochaine, puisque l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Lula, Cristóvão Buarque, est là. Donc il vient en France pour rêver pendant 3 semaines. Il va commencer à l'espace Mendès France, tout simplement parce qu'il explique ce que vient de dire Mohamed Jaber, qu'effectivement, certains ont rêvé leur pays, mais pas forcément dans le bon sens. Donc on organisera la résistance avec lui. Alors ce soir, Mohamed Jaber, bonsoir. Alors vous avez compris qu'on se connaissait un petit peu tous les deux. Nous avons produit avec Mohamed et son laboratoire, le LNEC, Laboratoire de Neurosciences et d'Études Cliniques, expérimentales et cliniques. Unité INSERM, je vous laisse lire le sigle absolument affreux qu'un technocrate a inventé pour nous. Avec Mohamed, on a monté 2 expositions qui font partie des succès de ces 10 dernières années de l'espace Mendès France. Le cerveau à tous les âges et cerveau et addiction. Exposition qui itinère partout en France. Et avec Mohamed, on est allé former des intervenants au Liban pendant 1 semaine. Magnifique expérience qui montre que ce qui est produit ici sert également nos amis dans d'autres pays. Donc avec Mohamed Jaber, on a l'habitude depuis très longtemps de mener à travers la semaine du cerveau chaque année une expérience de médiation avec vous pour avancer sur les recherches éminentes qui sont effectuées ici à Poitiers dans notre belle université. Et puis nous a rejoint Jean-Marc Dupeu qui va engager un dialogue à la fois avec son collègue, mais également avec vous. Et puis, je crois que Élise Grand-Georges, qui devait nous rejoindre, a malheureusement un problème. Mais Héloïse Morel, qui organise cette soirée, vous dira quelques mots, puisque cette artiste doctorante en histoire de l'art nous a donné des éléments de sa présentation. Donc voilà, je vais laisser nos amis montrer un certain nombre de choses et en particulier nous expliquer ou nous permettre de comprendre est-ce que le rêve se fabrique et si tel est le cas, ça se passe comment. Encore une fois, je vous l'ai dit, l'homme est un être biologique, on en parlera ce soir, mais n'hésitez pas à poser des questions qui rappellent que nous sommes aussi des êtres sensibles, émotifs. Donc la parole est ouverte, tout est enregistré la parole est libre, hein, ne vous inquiétez pas. Tout est enregistré et tout ça nous sert ultérieurement à monter d'autres opérations parce que vos témoignages servent à la programmation de cette maison. Donc bonne soirée à toutes et à tous. Et Mohamed, je vais te laisser la parole.
Merci. Merci beaucoup Didier. Bienvenue à toutes et à tous. Et c'était toujours pour moi un plaisir renouvelé de me retrouver ici à l'Espace Mendès France pour les 30 ans. Je vais très rapidement donner la parole à mon collègue, puisque c'est malgré nos points de vue qui peuvent être divergents, nous sommes des collègues. Mais avant, je souhaitais vraiment dire tout le plaisir que j'ai ici à être parmi vous pour les 30 ans de Mendès, parce que ça fait au moins une quinzaine d'années qu'on travaille ensemble. Et c'est toujours une expérience pour moi, parce que je suis donc professeur à l'université de Poitiers et je suis devenu, avec d'autres collègues, le neurobiologiste de service. Donc à chaque fois qu'il faut donner un avis de neurobiologiste, je suis avec d'autres invités et c'est un plaisir de venir. Et là, je dois dire que, comme vous allez vite le voir, je suis tombé dans un piège parce qu'on m'a dit, tiens, on va faire les 30 ans de Mendès autour du rêve. Est-ce que tu veux bien nous donner l'avis des neurobiologistes ? Je dis oui, très bien, pas de problème. Et ce que je pensais me prendra 2 heures l'après-midi entre deux choses à faire urgentes et importantes. Je me dis, pendant 2 heures, je me bloque 2 heures, je fais un truc ludique qui me plaît, je vais voir ce qu'on peut trouver sur les rêves de point de vue neuro. Ça m'a pris trois jours et je n'ai rien trouvé. Et je vais vous montrer tout ce que je n'ai pas trouvé. Donc, voilà. Je vais donner la parole tout de suite à mon collègue qui a quelque chose à vous dire et à vous passer.
D'abord, auparavant, ceux qui sont venus pour assister à un match de catch entre le neurobiologiste et le psychanalyste, ils pouvaient partir, c'est raté, parce qu'on ne s'était jamais rencontrés avec Mohamed. On a fait connaissance il y a une demi-heure à la cafétéria en haut. On est déjà devenus les meilleurs amis du monde.
C'est absolument déprimant.
Le match de catch, non. Alors, par contre, et en plus, il est très gentil parce que je vais dire, un peu perturber son exposé, c'est que je voudrais faire circuler parmi vous 2 documents. Une assiette de famille, soyez gentils de ne pas la casser, ça a un bon siècle et quand même, je voudrais la récupérer, qui représente un rébus. Et puis, vous verrez un truc assez drôle, qui est une BD sans parole, qui date de la même époque, de 1920 par là. Je vous l'ai fait circuler. Chaque personne regarde les deux à la fois. Le rébus, ne vous fatiguez pas à le comprendre. Il y a le résultat derrière. C'est impossible de comprendre tout seul. Et puis, par contre, vous verrez que la BD est très amusante. Et là, on comprend tout de suite. Bon, vous regardez ça parce que j'essaierai d'expliquer pendant mon exposé que ce sont 2 théories du rêve différentes. Il y en a une avec laquelle je suis d'accord et une avec laquelle je suis en désaccord. Voilà. Alors, il est très gentil parce que ça veut dire que pendant son exposé, il y aura une personne sur 150 ou 120 qui ne l'écouteront pas. Il me dit une personne sur 100 qui ne m'écoute pas, ce n'est pas grave parce qu'il y en aura sans doute beaucoup plus qu'une personne sur 100. Mais,
voilà. J'ai fait cours ce matin à mes étudiants, ils étaient 200. Je ne suis pas sûr que c'est seulement 1% qui ne m'écoutait pas. Parce que sur les 200, il y en a au moins le quart qui a son ordinateur ouvert. Donc ou bien il est en train de prendre des notes, ou bien il est en train de regarder YouTube. Moi, j'en sais rien du tout, parce que je ne vais pas circuler entre eux pour voir ça. Alors, merci beaucoup à tous pour cette introduction. Donc je vais reprendre ce que je disais, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce que c'était que le rêve d'un point de vue neurobiologiste. Et je vais faire tout de suite la publicité d'un autre exposé qui aura lieu à l'Espace Mendès France en février, par mon collègue et ami, le professeur Xavier Drouot, qui, lui, est un spécialiste du sommeil, ici, au CHU de Poitiers, et qui va certainement vous parler des rêves de point de vue clinique. Et je vous invite, si l'exposé de ce soir ne vous a pas complètement guéri, de venir aussi l'écouter. Donc, l'une des questions que je me suis posée, c'est, mais finalement, je me pose, moi, la question, qu'est-ce que le rêve ? Mais depuis quand on se pose la question. Depuis quand l'humanité se pose la question, qu'est-ce que le rêve ? Et en fait, très vite, je suis tombé sur Hermès, qui est, comme vous le savez, une divinité de la mythologie grecque, divinité de l'Olympe. Il est le messager des dieux. Et Par ailleurs, il conduit les âmes aux enfers. Donc Hermès, comme vous pouvez le voir ici, il a des bottes ailées, avec un casque ailé, et ses ailes vont lui permettre de traverser différents mondes et d'amener les gens vers Hadès, donc vers la porte de la mort. Et donc, en même temps qu'il amène les mortels vers Hadès, il est capable de voyager, il est capable de traverser plusieurs mondes. Et on pense toujours que le sommeil est une petite mort, et donc c'est quelqu'un qui intervient aussi dans les rêves. Et par son intervention dans les rêves, il a une influence importante dans la mythologie. Alors, il a son alter ego, si je puis dire, romain, latin, qui est Mercure. Mercure, ça vient du mot marchand, marchandise. Et bien entendu aussi, hein, quand on parle de marchandise à l'époque romaine, on parle de voyage, on parle de traversée. Et Mercure aussi voyage et amène non seulement les marchandises, mais amène aussi les hommes dans différents mondes. Alors aujourd'hui, vous avez vu Flash, un personnage donc de DC Comics, pour être actuel. Donc c'est un personnage qui est un super-héros, donc un dieu, comme les dieux de l'Olympe, comme les dieux mythiques romains. Donc c'est un super-héros qui non seulement court extrêmement vite, comme vous pouvez voir ici, mais il a aussi quasiment les mêmes attributs physiques hein, que Hermès et Mercure, à savoir il a des bottes ailées et il a aussi des petites ailes autour de son casque. Et par ailleurs, dans les comics récents, c'est quelqu'un qui non seulement court extrêmement vite, mais qui, de par sa vitesse, est capable de traverser et d'exister dans différents mondes parallèles. Et par là même, quand on parle de monde parallèle, on parle bien entendu du monde des rêves. Donc c'est une question qui s'oppose depuis toujours et qui s'oppose encore aujourd'hui. Donc, je ne suis pas le premier à la poser. Mais aussi, une question très rapide qui vient à l'esprit quand on travaille sur la notion du rêve, c'est en fait, c'est quoi le rêve? Et on rêve, bien entendu, je ne vais pas aborder le rêve éveillé. C'est qu'est-ce que le sommeil? C'est quand on dort, qu'est-ce qui se passe? Alors, du point de vue neurobiologique, les travaux de Jouvet, qu'on va citer probablement tous les deux, c'est assez bien cadré, hein, le sommeil. Donc, il y a différentes phases que vous connaissez tous. Hein. La première phase, qui est la phase de l'endormissement, c'est écrit que c'est 5% de la durée totale de la nuit, mais ça dépend. Ça dépend des gens, parce que la phase d'endormissement peut être une phase extrêmement compliquée, et certaines pathologies du sommeil sont des pathologies liées essentiellement à l'endormissement. Donc, c'est une phase qui peut durer extrêmement longtemps, avec des caractéristiques qu'on connaît tous, hein, les bâillements, l'engourdissement musculaire, etc. Vient ensuite le sommeil lent et léger, qui constitue quasiment la moitié de la nuit. Pendant cette période-là, on entend encore, on peut être facilement réveillé, on a une respiration, un rythme cardiaque qui sont réguliers et lents, et on peut être réveillé extrêmement facilement. Donc la moitié de la nuit, on peut être réveillé très facilement. Vous avez après le sommeil lent et profond, qui constitue plus ou moins 25% de la nuit. C'est le sommeil dit réparateur. C'est un sommeil extrêmement important du point de vue neurobiologique. Les muscles sont complètement relâchés, la respiration est lente, le rythme cardiaque est lent, et on est très très difficile à réveiller. D'accord ? Et vient ensuite le sommeil paradoxal, qui constitue 20 à 25% de la nuit, mais la durée du sommeil paradoxal va augmenter au fur et à mesure de la nuit. On n'a pas la même durée de sommeil paradoxal pendant lequel se font les rêves, au début de la nuit et à la fin de la nuit. Et contrairement au sommeil lent et profond, là, le rythme cardiaque et la respiration sont irréguliers, je dirais même plutôt forts. Il y a un mouvement rapide des yeux qu'on appelle, comme vous allez le voir, le mouvement REM, Rapid Eye Movement, et c'est la phase des rêves. Voilà. Alors pendant cette phase-là, on peut être réveillé, et d'ailleurs, c'est ce que les neurobiologistes ont fait depuis toujours, ils ont réveillé les gens qui sont en sommeil paradoxal et leur ont demandé de raconter leurs rêves. C'est là qu'on rêve. Donc ça, on le sait. Et c'est ce qu'on appelle un train de sommeil. Un train de sommeil, c'est ces 4 ou 5 cycles, parce que certains cycles peuvent être découpés en deux. Donc ces cycles-là ont une durée moyenne de 1h30 à 2h, ça dépend des personnes. Et à la fin de chaque cycle, il y a une période de latence. Cette période de latence, c'est entre deux trains. Donc soit vous allez démarrer avec un nouveau train, donc vous allez comme ça accumuler 4 à 6 trains par nuit, soit vous allez littéralement vous réveiller. C'est là normalement qu'on se réveille pour aller faire pipi, ce qui m'arrive de plus en plus souvent à mon âge, n'est-ce pas? Donc c'est pendant la période de latence qu'on fait ça. Le problème, c'est que si la période de latence dure trop longtemps, qu'on allume la lumière et qu'on regarde son téléphone, pour prendre le train d'après, ben, ça prend beaucoup plus d'efforts. Il faut complètement tout recommencer. C'est ça qu'il faut faire tout un peu à l'aveugle. Donc 4 à 6 trains par nuit. Si votre réveil sonne vers la phase de latence, tout va bien. Vous êtes réveillé, ça tombe pile poil. Mais si le réveil sonne pendant le sommeil lent et profond, vous n'allez pas l'entendre. Donc après, on se connaît, on va tous se caler pour que le réveil sonne autour de la phase de latence, parce que sinon, vous allez vous réveiller fatigué quand même. Donc voilà. Alors c'est important de montrer ça, parce que les neurobiologistes, quand ils voient ça, et là on revient au rêve, ils disent, je vais vous raconter tout de suite la fin de l'histoire, ils disent, le rêve c'est un épiphénomène, parce qu'en fait le sommeil est une fonction physiologique, elle est physiologique et elle est identique pour tout le monde. Maintenant, la durée, elle est plus ou moins longue, parce qu'on n'est pas tous identiques, mais quelle que soit la culture, l'endroit, le sexe, l'âge de la personne, bon, il y a des variations, bien entendu, c'est assez standard. Donc, c'est une fonction biologique qui n'a rien à voir avec un attribut psychique quelconque. Je vais juste dire ça tout de suite. Alors après, je regarde, comme tous, les dictionnaires, je tape rêve et je trouve production psychique survenant pendant le sommeil, et pouvant être partiellement mémorisé. Et malheureusement, en tant que professeur à l'université, je fais pas mal de cours. À chaque fois que j'ai essayé de trouver une définition dans un dictionnaire, j'étais particulièrement déçu. Et cette fois-ci, n'est pas une exception à la règle. On n'apprend rien par des définitions comme ça, finalement. On n'apprend rien. Alors, on ne peut pas tout de suite poser la question « qu'est-ce que le rêve ?» parce que c'est une question extrêmement complexe. En tant que chercheur, à chaque fois qu'on a en face des questions complexes, il nous faut les décomposer en questions simples. Donc, c'est ce que j'essaie de vous montrer. Qu'est-ce que le sommeil? Qu'est-ce qu'on sait? Depuis quand on s'y intéresse? Et puis, que se passe-t-il quand on rêve? Parce que si on pose la question tout de suite, qu'est-ce que le rêve? La réponse est très complexe, comme vous allez le voir ce soir. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on rêve? Et de fait, qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil paradoxal? Parce que c'est là qu'on rêve. Alors, vous avez le texte sous les yeux, mais je vais le commenter. On a vu qu'une période de rêve dure approximativement une vingtaine de minutes et elle a lieu à chaque train, donc toutes les 90 minutes en moyenne, et elle a lieu 4 à 6 fois par nuit. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement régulières, physiologiques, standardisées. Je parle bien entendu du sommeil paradoxal. Alors, pendant cette phase-là, nos yeux vont effectuer ces fameux « rapid eye movement », ces fameux mouvements rapides, le corps est relâché, mais pas complètement. Alors, on n'est pas du tout avec un corps complètement atone, complètement relâché et les muscles complètement immobiles. Le corps est relâché, mais il y a une certaine tension musculaire. Et par ailleurs, comme vous le savez, parce qu'on va en parler après, vous ne vivez pas vos rêves. À part le syndrome de jambes sans repos, où les gens vont courir pendant leur sommeil. Mais heureusement qu'on ne vit pas nos rêves. Pourquoi? Je vais vous le dire, parce que les régions du cerveau qui sont responsables de la motricité sont totalement inhibées pendant vos rêves. Sinon, ça va être la bagarre tous les soirs. Donc le corps est relâché, mais pas complètement immobile. Ces mouvements des yeux sont en relation directe avec l'activité électrique du cerveau. Donc le cerveau n'est pas au repos. D'ailleurs, il va consommer autant d'énergie, autant de glucose, autant d'oxygène que pendant une phase éveillée. Alors sachez que pendant la phase éveillée, on consomme approximativement 25% de l'oxygène et du glucose du corps. Donc notre cerveau pèse plus ou moins 1,2 kg, mais on consomme 25% de l'énergie du corps. Et donc cette consommation-là, elle a lieu aussi pendant le rêve. Donc le rêve, pendant le rêve, le cerveau est particulièrement actif. Mais comme on va le voir dans la diapositive d'après, pas tout le cerveau et pas toutes les régions. Voilà. Donc c'est typiquement ce qu'on fait dans les cliniques de sommeil. Maintenant, on a des électrodes qui sont sans fil, donc on va enregistrer les différentes ondes et on va pouvoir déterminer dans quelle phase la personne est, parmi les 4 phases, les 4 ou 5 phases que je vous ai montrées. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau neurobiologique pendant les rêves? Alors, vous avez, comme j'ai dit à mes étudiants, vous avez tout sur la diapositive et je vais la commenter. On a des régions cérébrales qui sont actives, même très actives, et des régions cérébrales qui, normalement, sont extrêmement actives pendant la phase éveillée, et qui se trouve totalement inactif pendant le rêve. Et ces activités cérébrales, en soi, peuvent expliquer pas mal de choses. Par exemple, le thalamus. Le thalamus, c'est une région du cerveau, que vous voyez ici, en blanc, qui est un relais des différents signaux sensoriels vers le cortex. À savoir, toutes les informations sensorielles que vous avez, auditives, visuelles, tactiles, vont transiter par le thalamus avant de passer par le cortex. Le cortex qui va les analyser, les interpréter. Le cortex ne reçoit pas les informations brutes. Il y a une sorte de sélection avant. Et cette sélection est très importante. Donc le thalamus va sélectionner des informations. Vous avez d'autres régions qui ont des noms un peu difficiles, comme le gyrus cingulaire antérieur, qui vont réguler l'attention et la motivation. Donc, curieusement, pendant notre période de sommeil paradoxal et de fête, je dis bien de fête de rêve, parce qu'on ne peut le savoir qu'en réveillant les personnes, on a une région du cerveau qui est responsable de l'attention, qui est particulièrement active. Et donc, ça pourrait expliquer pourquoi les images de rêve que nous recevons, et dont on se souvient du moins, sont des expériences et des images extrêmement vives et extrêmement changeantes. Parce qu'on est, notre attention est paradoxalement au maximum. Le pont, ici, j'en ai parlé ce matin pour un cours que je faisais sur le cervelet, c'est le centre, on sait que c'est le centre du sommeil paradoxal. Donc l'hypothèse dont on va parler aussi, c'est que nous rêvons parce que le cortex va essayer d'attribuer un sens aux informations qu'il reçoit de cette région du cerveau qui est le pont. Alors pourquoi il reçoit cette information, c'est bien entendu toute la question. Alors, l'hippocampe, une autre région du cerveau qui est intéressante parce que c'est le siège de la mémoire à long terme. C'est le siège de vos vacances de ski il y a 3 ans, c'est le siège de la mémoire de votre enfance, c'est le siège de la mémoire de votre soirée de 18 ans, etc. Donc l'hippocampe qui est là où sont stockées vos mémoires est particulièrement actif pendant la période de rêve. Donc, d'où la reconstruction aussi. On peut comprendre qu'on puisse reconstruire certains éléments qui nous sont familiers et qu'on interprète curieusement par la suite. Alors, l'amygdale, ce n'est pas les amygdales qui sont là et qui nous font mal quand on a froid. C'est l'amygdale qui est une région du cerveau qui est le siège des émotions. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'amygdale est la structure du cerveau qui va colorer affectivement notre expérience subjective avec l'environnement. Donc c'est la région qui va vous dire j'ai peur, j'ai pas peur, j'aime pas, c'est plaisant, c'est dégoûtant. Mais surtout, elle est surtout activée par les émotions négatives et surtout très activée par la peur. Donc cette région-là, elle est très primitive. On la partage avec, sur le plan phylogénique, avec des animaux qu'on appelle primitifs. On la partage avec les reptiles, par exemple. Elle est extrêmement importante parce que c'est ce qui fait qu'on évite tout ce qui nous fait mal. On évite de mettre le doigt dans le feu ou de se faire couper la main. Donc cette région-là, la région, si vous voulez exagérer un peu, la région de la peur, elle est particulièrement active pendant le sommeil paradoxal, en tout cas. Alors, d'autres régions du cerveau sont curieusement complètement inactives, comme le cortex préfrontal et le cortex orbitofrontal. Alors, mon collègue psychiatre doit les connaître parfaitement bien, parce que c'est le siège de la pensée consciente et c'est la partie de notre cerveau qui va contrôler notre interaction avec l'environnement. C'est ce qui donne du sens à notre environnement. Et ces régions-là, pour vous mettre un peu le doigt là-dessus, c'est des régions qui sont particulièrement perturbées dans des affections psychiatriques telles que la schizophrénie, où les patients ont du mal à interpréter d'une manière homogène, je dirais, l'environnement dans lequel ils sont. Ces régions-là sont totalement inactives. Et donc, c'est ce qui pourrait expliquer que certains rêves sont totalement illogiques, bizarres, et malgré leur bizarrerie, ben on les accepte quand on rêve, parce que la zone du cerveau qui va vous dire « attention, ça c'est totalement anormal », ben elle est complètement inactive. D'accord ? Et puis, il y a le lobe pariétal inférieur. C'est une région qui est responsable, entre autres, de la mémoire à court terme. Elle est inactive et c'est ce qui fait qu'on se rappelle très, très mal de nos rêves, sauf si on nous réveille pendant qu'on rêve, sauf les rêves qu'on fait juste avant de se réveiller le matin. Mais les rêves qu'on fait pendant la nuit, si on ne se réveille pas, vous n'allez pas vous en rappeler. Donc ça pourrait déjà donner quelques éléments de réponse sur qu'est-ce que le rêve. Et puis, aussi, je me suis posé la question, pour décomposer la question de qu'est-ce que le rêve, je me suis posé la question, mais à quel âge, à partir de quel âge on rêve ? Alors, ce qu'on sait, c'est que le fœtus, donc dans le ventre de sa maman, il passe quasiment la totale partie de son temps à dormir. Et ces phases d'endormissement sont essentiellement du sommeil paradoxal. C'est surtout 7e, 8e, 9e mois, hein, quand vous avez le cortex qui est un peu développé. Donc, est-ce que le fœtus rêve ? On ne sait pas très bien, mais en tout cas, il fait du sommeil paradoxal et il bouge pendant son rêve. Hein, vous l'avez certainement tous constaté. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que vers l'âge de 8 mois, le circuit thalamo-cortical est déjà en place et c'est un circuit qui permet d'avoir accès à la conscience de soi et de son entourage. Donc, on peut penser qu'un embryon de 8 à 9 mois...
Oui, 8 mois de fœtus, oui.
Le fœtus.
Pas la naissance.
Pas la naissance, d'accord. Le fœtus. Alors, à la naissance, les enfants préscolaires font des rêves, mais apparemment, mon collègue psychiatre vous corrigera, c'est plus son domaine que le mien, apparemment, les rêves sont plutôt statiques. Ce n'est pas des rêves en mouvement. Ce n'est pas des rêves construits. Alors, ils ont des terreurs nocturnes, mais ils ont vu un monstre. Ils ont des rêves plaisants, ils ont vu quelque chose, mais ce n'est pas une action. Hein, nous, c'est quasiment un film, hein, et ça ne se met pas en place. Puis l'autre chose que j'ai apprise aussi, c'est les non-voyants, ils rêvent de quoi ? Hein ? Parce que ça aussi, on peut se poser la question. Ben, apparemment, j'ai lu plusieurs articles qui montrent que les non-voyants rêvent d'une manière sensorielle. Ils rêvent de goût, de toucher, d'odorat. Ils rêvent avec leur sens. Par exemple, une personne non-voyante à qui on a questionné « Racontez-nous un rêve », il a dit « Je rêvais que je conduisais ». On dit « Bah, alors, quand vous conduisez, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Je conduisais, et puis étant donné que je suis aveugle, j'allais direct vers un arbre ». Il dit « Mais comment vous avez vu l'arbre ?» Non, mais en fait, il ne voit pas l'arbre. Il voit un environnement, il entend le bruit de la voiture, il sent l'odeur de l'arbre, il a des sensations de toucher de l'arbre et il entend aussi le bruit de feuilles. Donc, c'est un rêve sensoriel. D'accord ? Est-ce que le rêve est propre à notre espèce ? La réponse est tout de suite non. Là, je suis tombé sur un très bel article dans Science, qui est l'une des plus grandes revues scientifiques, publiée il y a à peine 2 ou 3 ans, où on montre que chez un lézard extrêmement primitif, qu'on appelle d'ailleurs le dragon, il est en sommeil paradoxal avec des mouvements des yeux. Maintenant, est-ce qu'il rêve ? On n'en sait rien, mais il a du sommeil paradoxal. Notre collègue dont on a parlé tout à l'heure autour d'un verre d'eau, Michel Jouvet, à Lyon, c'est une grande école française qui a travaillé sur le sommeil. C'est eux qui ont décomposé les différentes phases du sommeil, qui ont décrit le sommeil paradoxal et qui ont travaillé sur le rêve, entre autres, je dirais même essentiellement, chez le chat. Et ils ont décrit donc l'activité, vous voyez ici, de cortex visuel pendant l'éveil, pendant le sommeil lent, le sommeil paradoxal. Ils ont décrit l'activité de plusieurs régions du cerveau en termes d'activité électrique. Et donc, ils ont réussi à décomposer le rêve. Et surtout, ici, ils ont fait une expérience qui est peut-être un peu choquante, j'entends bien, mais l'expérience consistait à déconnecter les régions du cerveau qui inhibent les mouvements pendant les rêves. Je vais le répéter. Quand on rêve, on n'agit pas nos rêves. Tout simplement parce qu'il y a des régions du cerveau qui sont complètement déconnectées et qui font que les muscles ne vont pas agir vos rêves. Sinon, Sinon, il faut changer les draps tous les matins, ce n'est pas possible. Et donc, ils ont déconnecté ces régions chez les chats. Et le chat, en fait, il va agir ses rêves quand on déconnecte ces régions. Donc, il va se lever, il va ouvrir les yeux, mais il ne voit rien. Il est en train de dormir. Et quand vous lui mettez un petit objet devant lui, il ne le voit pas, il n'interagit pas avec cet objet-là, il interagit avec un objet complètement imaginatif qui est dans ses rêves. Et ça, c'était, bien entendu, quelque chose de fondamental qui a été le travail de nos collègues de Lyon. Et là, je commence un peu à toucher au domaine de mon collègue, et j'arrive à la fin de mon exposé, c'est la question, c'est pourquoi nous rêvons ? Pourquoi on rêve ? Alors, moi, je ne vais pas aller vers la psychiatrie, la psychanalyse, on a un éminent spécialiste, je vais aller vers le domaine que je connais le mieux, qui est la biologie. Donc, vous avez compris, rêver est associé au mouvement des yeux, on se souvient mieux de nos rêves quand on est réveillé, et ça, c'était quand on est réveillé pendant les rêves, et ça, c'était découvert déjà depuis les années 50, et Jouvet et l'école de Lyon l'a énormément perfectionné. Alors, là où tout le monde est d'accord en biologie, c'est le modèle d'activation synthèse qui a été élaboré dans les années 77, qui dit que, finalement, c'est un phénomène totalement physiologique. Donc l'inconscient et tout ça, ce n'est pas nos affaires, c'est de la biologie, puisque tout le monde fait les mêmes durées, les mêmes sommeils, les mêmes phases. Et puis on a remarqué que les régions que je vous ai décrites qui sont stimulées sont totalement en phase avec l'expérience antérieure du sujet, et qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ces régions-là qui vont émettre d'une manière spontanée des des activations, et notamment le pont, qui vont arriver vers le cortex. Ben, le cortex va recevoir toutes ces informations pendant que vous dormez, il va dire ben, qu'est-ce que c'est que tout ça. Il va essayer de donner du sens à ces stimuli à partir de l'expérience antérieure du sujet. Voilà, c'est fini, on a trouvé, il n'y a plus rien à dire, c'est de l'activité aléatoire et on essaie de donner du sens à ce qu'on ne sait pas. Je me dois de vous décrire la théorie de l'apprentissage inversé, vous avez certainement entendu parler de ça, qui est l'hypothèse de Francis Crick. Alors Francis Crick, ce n'est pas le premier venu, hein, c'est le prix Nobel qui lui a été attribué dans les années 70 pour sa découverte de la structure de la double hélice de l'ADN. Pour les jeunes biologistes qui sont là, ils doivent savoir de quoi je parle. Et donc, c'est un chimiste. Et il connaît strictement rien au cerveau. Il s'est permis quand même une publication dans Nature ou dans Science où il a élaboré une théorie basée sur rien et qui dit que, en fait, nos circuits de mémoire, si on se souvient de tout, nos circuits de mémoire risquent de saturer. Donc déjà, ça, c'est faux. Et il dit donc que les rêves serviraient à éliminer les débris cognitifs et en fait, nous rêvons pour oublier. Donc, pendant le rêve, on fait un reset et tous les événements insignifiants que vous avez vécus dans la journée sont totalement effacés et on remet tous les circuits neuronaux à zéro pour que le lendemain, on recommence. Voilà. Donc, en fait, pour lui, les rêves ne donnent pas accès à l'inconscient, pas plus qu'ils ne peuvent prédire l'avenir. Donc, tout cela n'a strictement aucun sens en ce qui concerne Francis Crick. Mais alors, le truc qui m'a le plus plu, parce que c'est quasiment caricatural, et je vais finir là-dessus, je dis ça à chaque fois à mes étudiants, c'est bientôt fini, en fait, je prends 4 heures comme ça. En fait, pour David Morris, en 98, on rêve uniquement pour des raisons physiologiques, voire mécanistiques. Je vais vous laisser lire, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, juste pour vous dire que, en fait, pour lui, la fonction du rêve est exclusivement mécanistique. Voilà. Il part du postulat que les fœtus rêvent en permanence, enfin, en tout cas, font du sommeil paradoxal en permanence, qu'ils ont des mouvements des yeux permanents. Et il dit, lui, en tant que médecin ophtalmo, il dit, ben, c'est normal, parce qu'en fait, il faut absolument que l'œil soit oxygéné et reçoit du sang, reçoit du glucose, sinon on aurait de la lésion de la rétine. Il a absolument raison. Et donc, c'est pour ça que quand on dort, il faut qu'on bouge les yeux à un moment donné, sinon on va avoir des lésions. Dans les faits, il a raison, parce qu'effectivement, si vous ne bougez pas les yeux, si vous ne clignez pas les yeux, votre rétine va avoir des lésions parce qu'elle ne sera pas assez oxygénée. Et de fait, il va plus loin jusqu'à dire, en fait, les rêves, ça ne sert strictement à rien, c'est rien du tout. C'est juste que ça a été mis en place pendant le développement, pendant aussi la sélection naturelle. Sinon, les yeux seraient lésés au bout de quelques jours. Et donc, voilà, ça ne sert strictement à rien. De quoi rêve-t-on, finalement? À savoir, est-ce qu'on peut avoir accès aux rêves pendant qu'on rêve? Plutôt que de réveiller les gens et leur demander de quoi vous avez rêvé, est-ce qu'on peut voir les rêves des autres? Ben, d'une manière surprenante, juste pour un peu vous titiller un peu, la réponse est oui. La réponse est oui, et ce sont deux travaux récents. Vous voyez, 2018, j'ai fait mon travail. Hein, donc j'étais des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, il y a deux recherches qui m'ont particulièrement intéressé. Une, bon, c'est les balbutiements. Hein, on est quasiment dans la science-fiction, mais c'est intéressant. Les chercheurs ont montré des photos aux personnes éveillées et ils ont mesuré par électromyogramme les contractions musculaires, que ce soit au niveau du visage, mais surtout autour de la bouche, pour deviner les mots. Chat, chien, fleur. Donc même si vous ne les dites pas, inconsciemment, vous avez des mini-contractions musculaires autour de la bouche et vous dites chat, chien, chat, mais pas complètement. Et ils ont traduit ces enregistrements-là. Et pendant que vous rêvez, ils vont mettre les mêmes électrodes sur vos visages, sur vos muscles. Ils vont dire, là, il joue au tennis. Là, il court. Là, il voit une fleur. J'exagère à peine, mais c'est la recherche qui est menée. Mais d'une manière un peu plus spectaculaire, une équipe japonaise est arrivée à visualiser les rêves. Alors, le principe est quasiment le même. Regardez, c'est facile à comprendre, en fait. Vous montrez des images simples aux gens éveillés. Donc, un carré blanc dans un carré noir. Trois carrés de couleur de couleurs contrastées l'un dans l'autre. Hein? Une croix, un plus. Donc des choses très contrastées. Vous les montrez. Et pendant ce temps-là, par imagerie cérébrale, vous enregistrez l'activité du cerveau. D'accord? Donc, l'ordinateur va vous dire telle région est activée, telle région est inhibée. Un peu binaire. Mais avec cette information-là, vous rentrez l'information dans des supercalculateurs et vous leur dites, en fait, quand cette région est activée et quand cette région est inhibée, c'est une croix noire. Quand cette région est activée et quand ces deux régions sont inhibées, c'est une croix blanche, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, on arrive, dans ces conditions, à prédire. Alors ça, c'est les images qu'on montre aux patients, enfin aux volontaires, les yeux ouverts. Ils ne rêvent pas, là, on leur montre. Et ça, c'est les images qu'on obtient à la fin du calcul sur l'ordinateur, sans regarder ce que l'autre voit. C'est-à-dire que l'ordinateur, dans une autre pièce, il vous dit, là, la personne a vu un carré blanc autour d'un carré noir. Vous voyez ? On a même montré des lettres. Et sur l'ordinateur, on voit, par l'activation du cerveau, les lettres neurones. Jusqu'à ces images-là, on montre chez la personne éveillée. On montre l'image d'une oie. Et l'ordinateur, dans une autre pièce, montre cette image-là.
C'est un signe.
C'est un signe. Tout ça est bon à manger pour les fêtes. C'est un signe. Et c'est très agressif, cette petite bête-là.
Ça se mange pas.
Ça se mange pas, oui. Enfin, c'est lui qui m'a coursé il y a quelques années. J'aurais bien aimé lui couper la tête. C'est très agressif. Alors, c'est ce qu'on voit dans une autre pièce. Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'on est capable de voir, d'interpréter par imagerie ce que la personne voit, ce qui nous amène au film que certains d'entre vous, Inception, où non seulement on rentre dans le rêve de quelqu'un, mais on va pouvoir agir aussi sur son rêve. Alors, je vais faire un peu de science-fiction. Si on arrive à faire ça, on peut agir sur les rêves. Parce que si on identifie les régions du cerveau qui sont stimulées et inhibées par une action quelconque, nous, en neurosciences, ce n'est pas très compliqué encore. On va y arriver. On peut stimuler et inhiber ces régions-là. Donc, de fait, on peut créer, si on aboutit à ce que ce collègue japonais a démontré il y a quelques mois seulement, en stimulant, en inhibant certaines régions du cerveau chez une personne qui dort, on pourrait, théoriquement, créer des images chez la personne qui dort. Donc, on n'est pas très loin. Bon, ça, c'est quand même très élaboré, hein. Mais l'idée est là. Bon, je vais finir par celle-là, parce que quand on tape rêve, sommeil, on tombe sur des choses un peu bizarres. Et c'est un petit clin d'œil pour quelqu'un qui me connaît bien, qui est dans la salle, qui n'arrête pas de me demander de courir. Voilà. Je vous remercie. Je vais passer la parole à mon collègue.
Bon. Je suis assez embêté, en fait. Je suis assez embêté parce que je ne sais plus, du coup, très bien par quel bout prendre les choses. Oui, quand même, voilà. Moi, je suis très content de parler avec un neurobiologiste. Et il se trouve que beaucoup de choses qu'il a apportées, avec beaucoup de modestie, hein, quand il dit en tant que neurobiologiste, finalement, c'est pas grand-chose sur les rêves. Nous, on est beaucoup plus prétentieux, on prétend savoir des choses. Mais en même temps, les choses qu'il a apportées, ponctuelles, ça tombe bien parce que ça va plutôt dans le sens des critiques que j'ai à faire à la théorie psychanalytique du rêve, et ça va plutôt dans le sens des nouvelles conceptions que nous essayons d'avoir en tant que psychanalyste sur le rêve. Donc ça tombe bien, il apporte plutôt de l'eau à mon moulin. S'il y a certains psychanalystes dans la salle, c'est peut-être avec certains psychanalystes que je vais être en conflit, parce que je pense appartenir à un courant relativement minoritaire de la psychanalyse, sans être un marginal, hein. Par exemple, les positions que je vais essayer d'exposer sont celles auxquelles adhérait Jean Laplanche. Jean Laplanche, qui est le plus grand penseur de la psychanalyse, décédé il y a quelques années, il était tout à fait d'accord avec ces conceptions-là. Seulement, lui-même est assez minoritaire. Voilà. Ce qui entraîne une certaine critique de la conception d'une partie des conceptions de Freud. Alors, on est psychanalyste, c'est très difficile de partir de la conception du rêve sans partir de Freud. Non pas par une sorte de dévotion qu'on reproche à juste titre aux psychanalystes de faire toujours la messe du maître, mais c'est parce que c'est lui qui a posé les concepts, les notions psychanalytique du rêve. Il n'avait pas la chance, par exemple, de connaître les travaux de Michel Jouvet, c'est-à-dire la question de savoir est-ce qu'il y a un moment particulier où on rêve la nuit. Ça, c'est très important parce que c'est la question de l'oubli des rêves. Vous savez, Michel Jouvet, 1958-59 à Lyon, il fait cette découverte un peu par hasard. Quand on est pédant, on dit par sérendipité, c'est-à-dire sans faire exprès, qu'il y a une zone, il y a une, ce qu'il nous a expliqué, hein, qu'à un moment qu'il a appelé, c'est lui qui a décidé de l'appeler le sommeil paradoxal. C'est paradoxal parce que l'enregistrement ressemble beaucoup plus à un enregistrement d'éveil qu'à un enregistrement de sommeil profond. Donc c'est pour ça qu'il a choisi ce mot paradoxal en disant les Américains ils disent n'importe quoi parce que quand ils disent sommeil au mouvement oculaire, sauf les taupes n'ont pas Dieu. Alors comment on fait ? Or elles rêvent. Donc il a dit à ses collaborateurs non, on va appeler ça paradoxal parce que ça ressemble à de l'éveil. Mais quand il a enregistré des êtres humains, il a quand même pas travaillé que sur les chats, surprise, il s'est aperçu qu'il y avait des gens qui ne se souvenaient jamais de leurs rêves et qui disaient « moi je crois que je rêve pas ». Eh bien, ces gens, quand on les réveille en période de sommeil paradoxal, 7-8 fois par nuit, ou je sais pas, un certain nombre de fois par nuit, eh bien, chaque fois, ils ont un rêve à raconter qu'ils ont oublié le matin. Ce qui fait que la question de savoir « est-ce que je ne rêve pas ?» ou « est-ce que je rêve mais j'oublie mes rêves ?» est solutionné d'une certaine manière parce que des gens normaux qui n'ont pas de rêve, pratiquement ça se trouve pas. Les cas exceptionnels de gens chez lesquels on ne rencontre pas de sommeil paradoxal, c'est vraiment très rare. Vous le savez enfin aussi, il se trouve que certains médicaments et certains antidépresseurs, notamment les IMAO, hein, suppriment le sommeil paradoxal, ce qui n'est pas sans poser des problèmes très étonnants. Et Michel Jouvet d'ailleurs disait moi, éthiquement, je ne sais pas à quoi sert les rêves. Je ne sais pas tout à fait encore à quoi ça sert. Mais éthiquement, je suis contre la prescription d'antidépresseurs, c'est-à-dire de médicaments qui empêchent de rêver à des gens normaux. Parce que quand même, qu'est-ce qui se passe quand on supprime la capacité de rêver ? Je mets ça entre parenthèses. Alors, il se trouve que moi, je fais partie de psychanalystes qui... disons dans les années 80-90, on remit au travail la théorie freudienne du rêve parce qu'elle nous apparaissait en partie insatisfaisante. Notamment, dans les années 80-90, on a commencé à rencontrer des personnes qui semblaient avoir des façons différentes de se présenter aux médecins ou aux psychanalystes. Et on a appelé ça la nouvelle clinique. Il y a des gens qui ne ressemblaient plus tout à fait aux névrosés que nous décrivait Freud au XIXe siècle. Et on a été amené à se demander si ces personnes, qui nous semblaient manquer d'imagination, de goût de jouer, etc., si ces personnes ne souffraient pas d'une carence de la capacité de rêver. C'était une hypothèse. Et en même temps, une sorte de carence de la part. Capacité de rêver, ce qui fait que la question d'interpréter les rêves, qui était la question classique des psychanalystes, et en tout cas celle de Freud, passait au second plan en fonction de la question de la fonction du rêve. À quoi ça sert de rêver ? Et qu'est-ce qui fait que s'il y a des personnes qui rêvent peu ou mal, ou dont la capacité de rêver est perturbée, ces gens-là vont pas bien ? Donc, on a transité de la question de l'interprétation des rêves. En tant que psychanalyste, on a des patients qui nous amènent beaucoup de rêves, presque trop des fois, 3 fois par semaine, et puis d'autres jamais. Alors, il y a en effet ceux qui, sans doute, rêvent et n'apportent pas de rêves, parce que ce n'est pas utile de s'en souvenir. Et puis, il y a ceux qui, peut-être, ont une perturbation de la capacité de rêver, et c'est ça qui nous a intéressés. Alors, je vais projeter cette diapo parce que, voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est les 4 chantiers de la question du rêve qu'ouvre en fait Freud. Si vous lisez son énorme bouquin qui fait 740 pages, qu'il a publié En fait, c'est un menteur. Il a publié en 1899, mais il a demandé à l'éditeur de le dater de 9 mois, de 1900, parce que ça faisait plus chic que ça, le premier livre du siècle, que le dernier du siècle précédent. On peut être psychanalyste et un peu coquin. Et il publie ce livre énorme, sans doute trop tôt, parce que quand il écrit ce livre, il n'a absolument pas encore élaboré sa théorie psychanalytique. C'est son premier grand livre. Il y passe beaucoup de temps, 5 ans, en même temps qu'il fait sa propre auto-analyse. Très étonnant, c'est le cas unique dans l'histoire des sciences, où c'est à la fois un livre qui se veut scientifique, et qui d'ailleurs a traversé les âges, on continue à le lire, et en même temps, c'est le compte-rendu de l'auto-analyse de Freud qui est déclenché par la mort de son père. Et cette auto-analyse, il le fait par l'interprétation de ses propres rêves. Alors, à partir de là, si on dépiote le livre, 4 grandes questions, 4 grands chantiers sont ouverts. Alors, évidemment, nous, on se place du point de vue du psychisme, c'est-à-dire on se parle du point de vue de ce que nous disent les patients. Nous n'avons pas d'appareil à enregistrer, et donc quand on dit qu'on cherche des causes ou qu'on cherche quelque chose, c'est tout le temps, ce sont des causes, évidemment, enfin des choses psychiques que nous recherchons, il faut être clair. On n'a pas d'autre moyen. Alors, premier sentier, c'est matériel et source du rêve. De quoi se sert le patient? À partir de quoi, le rêveur, pour fabriquer son rêve? Deuxième question, après je détaillerai, en effet, la question du sens et de l'interprétation du rêve. Est-ce qu'il est possible de donner un sens au récit de souvenirs de rêve que peut raconter le patient, le rêveur, à son réveil? Cette expression d'ailleurs, récit de souvenirs de rêve, je la dois à Michel Jouvet, qui dit en fait les rêves, les psychanalystes ne les connaissent pas, ils ne connaissent que des récits de souvenirs de rêve, il a parfaitement raison. Et est-ce qu'on peut interpréter ces récits de souvenirs de rêve en demandant aux patients d'être très précis, le plus précis possible dans ces récits? Et il dit d'ailleurs, ce récit, il faut le traiter comme un texte sacré. Parce qu'un texte sacré, il y a très peu de choses, il y a quelques mots, etc. Puis c'est caviardé des fois, les textes de la Bible, etc. Donc il faut que ce soit très précis et on va partir à partir de cette interprétation-là. Freud élabore une méthode d'interprétation très intéressante parce qu'elle réfute tout ce qu'on faisait avant. Ce n'est plus des gros symboles. Vous rêvez du soleil, c'est le père. Vous rêvez du nuage, c'est la castration. Vous rêvez d'un poisson, c'est vous voulez vous baigner. Enfin bon, vous rêvez d'une balance, c'est la justice. Non, on arrête avec ça et on va faire parler les patients très précisément à quoi leur fait penser chaque élément du rêve. Et puis à partir de là, en effet, l'idée de Freud, c'est de donner une interprétation à ce rêve. Troisième question, troisième chantier, source du rêve. Quel sens ça peut avoir quand on interprète, quand on cherche à interpréter les récits de souvenirs de rêve? Troisième question, travail du rêve, c'est-à-dire que fait le rêve à partir de ce matériel? Quel est le travail qui est fourni pour produire le rêve? Et là-dessus, Freud proposera, au fond, sans s'en apercevoir, 2 conceptions totalement contradictoires. Je crois que M. Jaber a tout à fait été dans le sens qui m'intéresse, c'est qu'en effet, il y a une bonne et une mauvaise. Et la bonne, je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas celle que pensait Freud. Et puis, dernier chantier, dernière grande question, en effet, à quoi sert de rêver? Alors, Freud, il faut le comprendre, il crée une nouvelle science. Il a quand même inventé pas mal de choses. Il a inventé surtout une méthode d'investigation absolument formidable. 40 ans après, je continue d'être fasciné par la méthode psychanalytique. C'est ça la grande invention de Freud, c'est la méthode. Après, ce qu'on découvre avec cette méthode, des fois on se trompe. Je vais vous raconter, je me souviens d'une patiente qui était une dame qui n'avait aucune culture, qui était une brave dame d'un village des environs, qui d'ailleurs avait eu des problèmes assez graves quand elle était petite. Elle n'avait pas pu faire ses études. Je crois qu'elle a été même en IME ou en hôpital de jour. Donc, elle n'avait pas très, très bien. Et un jour, elle vient et me dit, écoutez, docteur, je parle avec vous, on fait une psychothérapie, comme ça, tous les deux, ça s'appelle comme ça, hein, docteur. Je voudrais vous poser une question. Je lui ai dit, oui. Elle me dit, la psychothérapie, ce que nous faisons, c'est une invention ou une découverte? Et oui, la méthode, c'est l'invention. Les découvertes, c'est ce que nous faisons à l'aide de cette méthode. Quelquefois, on trouve des choses intéressantes, puis quelquefois, ce qu'on trouve se révèle erroné et il faut y renoncer. Donc, l'invention de Freud, c'est la méthode. Et cette méthode, on pourra voir qu'elle se rapproche beaucoup de la question du rêve. Alors, bon, sur la fonction du rêve, Freud ne se pose pas, n'a pas trop de réponse à ça. Il a une réponse un peu simple. Il dit, en fait, le rêve, c'est le gardien du sommeil. Alors, il y a des éléments qui vont dans ce sens-là, parce que, vous avez vu, je vous ai fait circuler la petite BD, là, hein, vous l'avez tous vu. Évidemment, la bonne française, elle fait le rêve pour ne pas se réveiller. Vous avez compris l'histoire, c'est que le bébé crie, et il faut qu'elle se réveille, parce que c'est son job. C'est une babysitter, quoi. C'est son job. Il faut qu'elle se lève pour faire pisser le bébé. Alors, plutôt que de se lever, elle fabrique ce rêve assez surréaliste où elle rêve qu'elle fait faire pipi au bébé. Et puis, le bébé pisse, et puis ça continue. Et puis, ça devient un océan, etc. Le bébé crie de plus en plus fort. Et puis, finalement, il faut quand même qu'elle se réveille. Parce que cette espèce de fantasmagorie qui s'est fabriquée dans le rêve. Je fais pisser le petit enfant dont j'ai la charge. J'ai beau le faire en rêve, ça résout pas le problème parce que dans la réalité le bébé il est mouillé et donc elle se réveille. Cette chose là exprime bien l'idée de rêve gardien du sommeil puisque tant qu'elle a pu, elle aurait essayé de pas se lever et puis il faut quand même qu'elle se lève quand ça se produit. Ce qui la réveille, c'est son rêve qui la réveille et pas le cri du bébé. Il nous disait bien que pendant le sommeil paradoxal, c'est très difficile de réveiller quelqu'un en lui disant « réveille-toi hein ». Là, c'est le rêve, au fond, qui finit par la réveiller. Je finis cette histoire-là. Donc, Freud, il avait cette idée-là. Évidemment, ça ne va pas très loin. Parce que dire le rêve est le gardien du sommeil, ça ne va pas très loin. Parce que, après tout, expliquez-nous pourquoi il faut dormir. Et Freud ne disposait pas de ce que nous savons grâce aux neurobiologistes, c'est qu'il y a le sommeil lent, qui a probablement une fonction qu'on ignore aussi, mais enfin une fonction différente de celle du sommeil paradoxal. Et Michel Jouvet fait remarquer que cette histoire que le rêve est le gardien du sommeil, on pourrait dire le contraire, on pourrait dire que le sommeil est le gardien du rêve, puisqu'il nous a bien expliqué que les sommeils, les périodes de sommeil lent, encadre les périodes de sommeil paradoxal. Que d'une certaine manière, le sommeil lent encadre le sommeil paradoxal. Et on sait qu'il y a une pathologie grave, hein, qui est la narcolepsie, où des gens tombent endormis directement au sommeil paradoxal. Vous me contredites si j'ai une bêtise. Et là, c'est très grave, parce qu'évidemment, ils sont en train de conduire leur voiture, puis d'un coup, paf, ils tombent endormis en sommeil paradoxal. Et là, évidemment, c'est très dangereux. C'est-à-dire que le sommeil lent qui encadre le sommeil paradoxal ne les protège pas. Hein ? Il ne faut pas tomber directement au sommeil paradoxal. Je vous fais remarquer un peu le truc inverse. C'est que si vous mettez un réveil pour vous réveiller le matin, vous pouvez être réveillé par hasard en sommeil lent. Ce n'est pas trop grave parce qu'en principe, on se réveille en sommeil lent. Mais quelquefois, le réveil sonne au milieu d'un rêve. Et là, c'est un peu plus embêtant. Et puis je vous fais remarquer qu'il y a une catégorie de rêves qu'on ne devrait pas appeler des rêves qui nous réveillent au contraire, qui se définissent par le fait qu'ils nous réveillent, ce sont les cauchemars nous réveillent. Je me souviens d'une patiente qui elle aussi ne connaissait rien à la psychanalyse, enfin qui n'avait pas de compétences à la psychanalyse, quand elle a vu que j'avais un divan dans mon bureau et que je lui proposais de s'allonger sur le divan, on est dans les années 80, hein. Elle me dit, docteur, excusez-moi, j'ai une question à vous poser. C'est vous qui avez inventé cette méthode ? Je lui dis, non, c'est pas moi. Elle ne savait même pas qu'il y avait un monsieur, il y a un siècle, qui avait inventé cette méthode. Pour dire qu'elle n'avait pas de culture psychanalytique. Quoique très intelligente, bien sûr. Et un jour, elle me raconte un cauchemar. Et je suis un peu distrait. Des fois, je n'ai pas bien écouté. Et en reprenant ce qu'elle me disait, je lui dis... Le rêve que vous avez fait, madame, elle me dit, non, docteur, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Et pour moi, ce sont deux choses très différentes, ça n'a rien à voir. Donc attention, c'est un cauchemar, ça n'est pas un rêve. Alors évidemment, nous sommes amenés à nous demander, et c'est quoi la différence entre le cauchemar et le rêve ? Il y en a tout à l'heure. Mais d'une certaine manière, Freud n'arrive pas à se poser la question, ce qui nous intéressait beaucoup plus, de la fonction psychique du rêve. Parce que dire le rêve sert à se maintenir en vie ou sert à dormir parce qu'on a besoin de dormir pour vivre, etc., n'est pas satisfaisant parce que, comme s'il n'y avait que des fonctions biologiques. Et quand je lis les livres de Michel Jouvet, je le vois très embarrassé. Michel Jouvet, il dit, moi, quand ils ont découvert le sommeil paradoxal, ils ont dit, en 10 ans, on aura compris la fonction du rêve. En 10 ans, on aura compris. Et puis, il dit, on n'a pas compris, on n'a rien trouvé, on n'a rien à dire, parce qu'on a l'impression que les gens peuvent ne pas rêver, c'est-à-dire vivre sans rêver, et ça ne les perturbe pas tant que ça. Il y a des discussions par rapport à ça, parce que Michel Jouvet n'était pas clinicien, et nous ne pensons pas ça. Hein. D'ailleurs, il disait, je suis contre la prescription de médicaments qui suppriment les rêves, parce que éthiquement, ça ne serait pas valable. Et il faisait remarquer la chose suivante. Dans un article paru en 1990. Il disait, pourquoi est-ce qu'en Union soviétique, les opposants à la politique de l'État, on les met en hôpital psychiatrique et on leur prescrit des neuroleptiques et des IMAO, qui sont des médicaments oniroprives, qui empêchent de rêver. Il disait, probablement, parce que ça les rend plus dociles à la doctrine officielle. Ils ne sont plus eux-mêmes. Donc, vous voyez, à la fois, il disait, ça sert finalement à rien de rêver, puisqu'il y a des gens qui ne rêvent pas et qui vont pas si mal. Et puis, en même temps, il signalait qu'il y avait, dans le fait de priver les gens de leurs rêves, quelque chose qui les robotisait. Une anecdote à ce propos, à nouveau clinique, qui venait confirmer cet avis-là. Une patiente était une dame qui avait perdu son mari, qu'elle avait connu très jeune, à qui elle était très attachée. Et elle n'arrivait pas à faire le deuil de ce mari. Elle était très mal. Donc, quand on n'arrive pas à faire le deuil, ce qu'on ressent ressemble à une dépression. Donc, évidemment, elle avait vu un médecin qui avait dit « Madame, vous êtes en deuil ». Vous êtes déprimé, je vais vous prescrire des antidépresseurs. Au bout de quelques mois ou années, elle a arrêté ses antidépresseurs parce qu'elle ne supportait pas l'état dans lequel elle se trouvait quand elle avait les antidépresseurs. Et finalement, elle préférait souffrir de la perte de son mari plutôt que de se sentir comme un robot, disait-elle, ou comme une sorte de robot. Elle retourne voir le médecin qui lui dit « Madame, c'est très très mal, vous n'êtes pas guéri de votre dépression, donc vous n'avez pas fini votre deuil, prenez les antidépresseurs pour finir votre deuil. » Nous avons l'impression que, justement, les antidépresseurs empêchent de faire le deuil. Ils calment la douleur, mais ils empêchent de faire le deuil. Et le nouveau compagnon qu'elle avait trouvé, un remplaçant du mari, trouvait ça très bien quand elle se comportait comme un robot. Elle disait, moi, j'ai l'impression d'être un robot, je ne ressens rien, je ne souffre pas, mais je préfère souffrir et me sentir moi-même. Et ses enfants lui disaient, maman, quand tu as ces antidépresseurs qui donc l'empêchaient de rêver, nous, on ne te reconnaît plus. On a l'impression qu'on a un robot à la place de la maman. On préfère que tu arrêtes ton traitement, que tu sois toi-même, même si tu souffres. C'est-à-dire que le deuil, s'il doit être fait, il sera fait par un travail psychique. Mais le médicament, non seulement ne permet pas de faire le deuil, mais peut-être l'entrave, l'empêche. Ça nous ouvre en effet sur une conception de la fonction du rêve psychique. Hein donc cette idée que, comme on ne connaît pas la fonction vitale, qui est perturbée quand on ne rêve pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une fonction psychique. Et que la conséquence... Donc, éventuellement, des troubles de la capacité de rêver, qui pourraient finalement être démontrés, peut-être, si on enregistre les personnes pendant une nuit ou deux, ne faut que les gens ne meurent pas. mais ils ont des troubles psychopathologiques. Parce que les animaux, ça n'existe pas, les troubles psychopathologiques. Ou bien ils vivent, ou bien ils meurent. Ou bien ils sont capables de parvenir à s'occuper d'eux, et puis s'ils n'y arrivent pas, ils ne deviennent pas fous, ils meurent. Un canard ou un cygne qui ne sait pas nager, il meurt. Dans la nature, je ne parle pas les gens qu'on élève, les bêtes qu'on élève. Alors, reprenons les choses. Je vais essayer d'être... Alors, matérialité sur du rêve, Freud repère, et ça c'est très intéressant, il repère en écoutant les gens, en les faisant parler, qu'il semble que les rêves aient des sources actuelles, c'est-à-dire ce qui s'est passé vraiment la veille du rêve, dont les patients, quelquefois, ne se rappellent pas eux-mêmes. Mais il faut des fois insister, il faut des fois insister pour qu'ils arrivent à retrouver cette cause actuelle qui s'est passée juste la veille. Freud minimise un peu l'importance de ces restes diurnes. Il dit « Oh, c'est indifférent. Le patient prend ce qu'il a à sa disposition pour fabriquer son rêve, mais peu importe. » Nous ne pensons pas ça. Je vais vous donner un exemple pour montrer qu'il n'est pas toujours facile de trouver les sources actuelles, c'est-à-dire ce qui s'est passé la veille du rêve. Et il faut des fois insister pour l'avoir, tout simplement parce que souvent, justement, ce qui va revenir dans le rêve, c'est un élément de la journée auquel le patient n'a pas eu le temps de s'intéresser et qu'il a négligé parce qu'il avait autre chose à faire. Et c'est comme si, pendant la nuit, ce qui n'a pas été traité, le patron m'a dit ça, c'est très désagréable, je suis en colère, etc. Que ce qui n'a pas été traité fait retour dans le rêve. Un exemple. Une de mes patientes, un jour, raconte un rêve où il y avait... une dame avec une robe jaune. Alors je lui dis, robe jaune, oui, dites-moi ce que ça vous fait penser, une robe jaune. À qui ça vous fait penser? Rien du tout. Non, non, moi vraiment, j'aime pas le jaune, j'ai pas d'amis qui sont en jaune, moi j'ai jamais porté de robe jaune, je vois pas. Alors il se trouve que j'avais un petit soupçon, parce que dans ce cas très particulier, il se trouve, par hasard, que je croyais avoir la clé. Pourquoi elle avait rêvé d'une dame avec une robe jaune? Il se trouve qu'une amie à moi était venue me rendre visite, qui portait une robe jaune, et je travaillais, mon cabinet était dans mon domicile. Et le jour de la précédente séance de cette dame, mon amie était là, et comme je travaillais, elle était au salon à côté, en train de... regarder dehors, s'occuper comme elle pouvait. Et elle avait ouvert la fenêtre pour regarder dehors. Elle ne connaissait pas le quartier où j'habitais. Elle portait sa robe jaune. Alors je dis à cette dame, écoutez, mardi dernier, quand vous êtes venu à votre séance, est-ce que vous n'auriez pas vu à ma fenêtre une dame avec une robe jaune? Ah, elle me dit, oui, maintenant que vous le dites, c'est vrai. Je suis sorti de votre cabinet, et puis comme je fais souvent, je levais les yeux vers là, et puis j'ai vu en effet une dame avec une robe jaune. Et tout ça avait réveillé sa jalousie, évidemment, que faisait cette femme chez moi, alors que j'étais, moi, son psychanalyste, et qu'il ne devrait pas y avoir d'autres femmes chez moi. Et bien sûr, la suite du rêve a mis à jour une certaine jalousie banale, une jalousie transférentielle. Cette femme inconnue avec une robe jaune était un peu comme une maman qui appartient au papa, c'est-à-dire au psychanalyste, et elle était un peu en colère d'avoir vu qu'il y avait quand même une femme dans ma vie. Voilà un exemple amusant. Autre exemple de rêve diurne, de sources actuelles que la personne peut ne pas se... Quelqu'un raconte un rêve, et je lui dis, alors oui, puisqu'on ne comprend pas votre rêve, qu'est-ce qui s'est passé hier? Enfin, la veille du rêve. Elle ne me dit rien du tout, comme d'habitude. Je me suis levé le matin, je suis allé au travail. Vous savez, c'est la routine, hein, mon travail, je vais au travail, etc. Bon, enfin, c'est vrai qu'à midi, il a fallu que, entre midi et deux heures, au moment de la pause repas, il a fallu que je passe à la gare parce que ma mère venait nous rendre visite. Et ça faisait combien de temps que votre mère n'est pas venue vous rendre visite? Oh, ça fait 2-3 ans. À part ça, il ne s'était rien passé d'exceptionnel. Mais cette irritation d'avoir à aller chercher sa mère, et évidemment, ça ne s'était pas très bien passé, avait été pas traitée parce qu'elle avait autre chose à faire et c'est revenu dans le rêve. Alors ça nous amène aux sources infantiles refoulées. Et c'est là où Freud découvre quelque chose de génial. C'est qu'il voit que cet élément de la veille du rêve, un petit détail dont il dit qu'il est indifférent et dont je vous ai montré en fait qu'il était secrètement micro-traumatique. La robe jaune de la dame qui est chez moi, la maman qu'il faut aller chercher à la gare et qui recommence à parler quand, comme quand elle avait 5 ans. Comment hein, t'es habillé, etc. Tous ces trucs. Et évidemment, font ressurgir des souvenirs de l'enfance refoulés, oubliés, qui n'ont pas été tout à fait digérés. Et c'est là qu'il y a pour nous quelque chose de très intéressant dans le rêve, c'est cette communication entre l'immédiat apparemment banal, mais en fait micro-traumatique, et puis des éléments de l'enfance. Et alors, là, Freud fait une hypothèse qui pourrait être intéressante à tester pour les neurobiologistes. Il dit la chose suivante. Il dit tout se passe comme si, tout se passe comme si, les souvenirs de l'enfance attiraient à eux les petits éléments micro-traumatiques. Lui, il ne dit pas micro-traumatiques. Les petits éléments de la veille attiraient à eux à cause de leur similarité. Hein ? Là, c'est évident que la mère qu'on est allé chercher à la gare quand on a 30 ans, eh bien, ça fait revenir à l'esprit un certain nombre de choses désagréables de l'enfance. Hein. Et au fond, c'est la découverte principale de Freud. C'est qu'il y a une mise en communication entre l'actuel et le passé. Alors, comment, à quel niveau des circuits ça se fait ? Les neurobiologistes devraient y travailler. Mais en tout cas, cliniquement, c'est avéré. Et c'est pour ça, que l'analyse, je ne dis pas l'interprétation, l'analyse du rêve, c'est-à-dire ces micro-petites choses, comme quand il montre à un sujet d'expérimentation une image, hein, petite chose, qu'est-ce que le patient en fait ? Et apparemment, des mises en connexion avec des choses du passé. Bien sûr, psychanalystes, qui pensons que beaucoup de troubles psychiques, notamment les troubles de la névrose, sont en rapport avec des éléments non digérés, des éléments non dépassés, des éléments traumatiques du passé, ça nous intéresse beaucoup parce que ça nous permet de rentrer dans du refoulé. C'est pour ça que Freud a eu cette formule que tout le monde répète peut-être, enfin ceux qui la connaissent, l'analyse ou l'interprétation du rêve est la voie royale qui nous mène à l'inconscient. Moi, j'ai une autre image. Vous savez, quand on est un resquilleur au métro parisien et qu'on n'a pas de ticket, on prend les trucs à contre-voie. C'est-à-dire qu'on essaie de passer par là où les gens sortent. Hein. On rentre à contre-voie pour resquiller. Le psychanalyste, il rentre à contre-voie parce qu'il rentre par ce petit souvenir qui s'est passé la veille, la robe jaune ou autre chose, et puis il rentre plus profondément. Et évidemment, ce qui l'intéresse, c'est... Il semble que le fait de rendre conscient, beaucoup plus conscient, cet ensemble d'éléments refoulés, etc., fait que le patient voit moins mal. Source corporelle, je vais passer assez vite, mais c'est assez spectaculaire. En effet, quelquefois, on a l'impression que des gens qui s'occupent peu d'eux, qui ne sont pas très hypochondriaques, moi, je ne suis pas hypochondriaque du tout, il y a des gens qui ne sont pas du tout hypochondriaques, donc qui ne s'occupent pas très bien de leur santé, et puis ils ne sont pas à l'affût du moindre petit symptôme qu'ils ont. Et ces gens, quelquefois, ils rêvent d'un petit truc comme ça, anodin, et puis en fouillant un peu, on s'aperçoit que c'est un petit symptôme, une petite douleur qu'ils ont quelque part, dont ils n'ont pas pris conscience pendant la journée parce qu'ils ne s'écoutent pas trop, et que, pouf, ça fait retour dans le rêve. Il peut arriver qu'un élément du rêve, c'est un, j'aime pas le mot message, mais une sorte de truc qui part comme ça du corps et qui peut éventuellement faire diagnostiquer une maladie. Hein. Le rêve est plus hypochondriaque. Nous sommes plus hypochondriaques la nuit que le jour, quand on n'est pas hypochondriaque. Alors ceux qui sont hypochondriaques, c'est différent parce qu'eux, ils n'arrivent plus à dormir tellement ils sont hypochondriaques. Ils sont obsédés par la peur et donc ils sont hypochondriaques de jour. Et là, c'est embêtant parce qu'ils s'occupent mal de leur vie. On passe à la... Donc voilà, simplement ce que je voulais montrer, c'est que l'essentiel de ça, c'est la communication entre les sources actuelles et les sources passées, avec cette idée d'une sorte de force d'attraction du passé traumatique de la part des événements
Et oui, elle me dit, il faut arrêter, mon vieux. Alors, on passe à la prochaine chose. Le sens et l'interprétation du rêve, c'est ce qui nous convient de moins. Parce que Freud dit, ça n'a rien à voir. Interpréter les rêves, ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de raconter. Parce qu'il fait cette hypothèse. Alors là, je crois que mon collègue a démontré que ce n'est pas possible. Mais des générations de psychanalystes sont d'accord avec ça. C'est-à-dire, il dit la chose suivante. Au fond, dans l'inconscient, il y aurait une pensée claire et distincte. Parfaitement claire. Ce qui n'est pas possible, puisque le tronc cérébral, le tronc... le cortex, merci. Le cortex n'est pas mobilisé. Mais l'idée est qu'il y aurait une idée claire et distincte. Cette idée claire et distincte doit être communiquée à la conscience. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais elle doit être communiquée à la conscience. Et donc, en même temps, c'est interdit, parce que il y a des interdits, il y a des censures par rapport à ces désirs que vous avez de coucher avec votre voisine ou de tuer votre patron. Et donc, à la fois ce message, on a envie, enfin l'inconscient aurait envie de le dire et ne peut pas le dire. Hein. Ami, comment c'est ? Ami a bien mangé, le sage met sa gloire. Voilà, on aurait une idée bien précise, philosophique, poétique, et puis on la mettrait, on la caviarde, on ferait des... comme dans le rébus que je vous ai fait circuler, et puis on mettrait des choses simplement pour tromper l'ennemi. C'est-à-dire qu'on est dans une situation un peu folle où le cerveau cortical, où la conscience voudrait nous communiquer d'une pensée inconsciente, mais que pour le faire, il ferait en sorte qu'on ne puisse pas le comprendre. Et Freud, à un moment, quand même, comme il n'est pas bête, fait la réflexion toute simple, quelques pages plus loin, quelques centaines de pages plus loin, il dit, c'est vrai qu'à bien réfléchir, si on ne devait pas le savoir, ça serait peut-être plus simple de le refouler et de ne pas le mettre en nuage. Donc, cette idée que interpréter un rêve, ce serait retrouver, comme le rébus que je vous ai montré, ce serait retrouver la pensée initiale parfaitement claire et philosophique et poétique, qui serait à l'origine du rêve. Je crois qu'on ne peut plus tenir cette position-là, même s'il y a sans doute une escouade de psychanalystes qui y croient encore, notamment ceux qui pensent que l'inconscient est structuré comme un langage. Ceux qui pensent qu'il y a du langage dans l'inconscient et qui voudraient s'exprimer avec ces choses très bizarres, c'est que, vous avez vu le rébus que je vous ai fait circuler, ce que vous voyez, ce qui est conscient lorsque vous regardez l'image, est absurde et incompréhensible. Et ce qui est clair et une belle phrase poétique est inconsciente. On pourrait penser que c'est le contraire. Que ce qui n'est pas conscient, c'est ce qui n'a pas encore été traité par le cortex ou par ce que nous appelons quelquefois, nous, le processus secondaire. Le travail, la façon dont le rêve travaille étant plutôt du processus primaire. Je passe à la dernière, et puis, tant pis, je m'arrêterai avant. Donc, Freud se dit, alors comment se fabrique le rêve à partir de là? Et donc, c'est très étrange, parce que pendant un long chapitre de 240 pages, après avoir raconté l'histoire du rébus, le rêve est un rébus. Voilà, vous avez une belle idée, votre inconscient a une belle idée qui pourrait s'exprimer en parole. Il veut vous la communiquer. Mais il la communique en la rendant incompréhensible. Et donc, nous, heureusement, le psychanalyste est là et il va faire la traduction un peu comme un prêtre qui est capable d'interpréter la parole de Dieu. Dieu nous adresse aussi des messages. D'une part, c'est très rare. Et puis, quand il nous adresse des messages, Dieu, on ne comprend rien. Alors, on a besoin d'un prêtre ou de quelqu'un pour nous dire ce que Dieu a voulu nous dire. Bizarre que tout d'un coup, l'inconscient, avec un grand I, se trouve à la place de Dieu. Pendant 240 pages, c'est le chapitre 6 pour les étudiants, hein, Freud essaie de démontrer ça. Alors, tout ce qu'il raconte est très intéressant, parce que les rêves qu'il raconte sont très intéressants, mais ça part de cette idée que le travail du rêve consiste à caviarder, à transformer, à rendre incompréhensible quelque chose qui devrait l'être. Donc, il y a cette idée. Il y a cette idée que si on postule que l'inconscient est là, et puis que la veille, il dit quelquefois l'action aussi, parce que quand on se réveille, c'est aussi pour faire des choses, tandis que la nuit, on ne va pas. Donc il y a cette idée que la pensée inconsciente serait très claire, c'est la belle phrase, et puis il faudrait la communiquer vers la veille, et pour ça, on ferait toute une censure. Hein, censure. Un peu plus loin, il réfléchit et il dit, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Enfin, un peu plus loin, 240 pages plus loin. En fait, si je cherche à comprendre quel est le trajet du rêve, si je cherche à comprendre dans quel sens, il parle en termes de circuit pratiquement. Hein, alors lui, il s'occupe du psychique parce qu'il n'est pas, il n'a pas les moyens. Il dit non, en fait, si on réfléchit, le rêve, il part de l'action. Il part de ce qui se passe dans la vie de veille. J'ai été chercher ma mère à la gare. Et le rêve, lui, il va remonter. Et il va produire des images. Il va produire des images. Et ces images, elles sont dans l'inconscient. Et quelquefois, nous n'y avons pas accès. Et finalement, finit-il par dire, après 20 ans de travail, finalement, on pourrait se dire que le rêve qui a le mieux accompli son travail, c'est celui dont au réveil, on ne se souvient pas. C'est-à-dire qu'en effet, on renverse la perspective. Est-ce que le but, c'est que, l'inconscient nous adresse des messages? Ou est-ce que le but, ce ne serait pas de digérer ce qui est de micro-traumatique ou de vraiment traumatique dans notre vie? On renverse les choses. Et Freud en arrive à dire cette chose incompréhensible après qu'on ait eu l'impression qu'il nous dit le rêve est un rébus. Hein, c'est inconscient et ça vient vers la veille, mais il y a une censure au milieu. Il en arrive à dire, si l'on devait définir le sens du rêve, on dirait que le sens est régrédient, c'est-à-dire qu'il va de la pensée vigile à l'inconscient. Et dans l'inconscient, il y a essentiellement des images. Dans le pont, dans les zones du pont cérébral, etc., il n'y a pas de pensée abstraite. C'est-à-dire qu'il en arrive à dire, finalement, sans s'apercevoir qu'il dit le contraire de ce qu'il a dit avant, à dire, non, finalement, il y a une régression psychique à partir d'une image, d'une pensée, ma mère me fait chier, à partir d'une pensée parfaitement claire et distincte, il va fabriquer des images qui expriment indirectement ça. C'est-à-dire cette idée que la pensée la plus primitive est une pensée en images. Les peintres souvent disent ça. Les peintres ne savent pas parler de leurs œuvres. Ils disent, moi, je pense en images. Et il y a un moment où Cézanne, qui va très très mal, à un moment, Cézanne traverse une période où il ne va pas bien du tout, et il dit, c'est terrible, je n'arrive même plus à penser en images. Et ce que Freud appelle la régression psychique, c'est le fait qu'une pensée abstraite, un affect, une pensée assez rationnelle, doit être, pour qu'on rêve, transformée en image. On n'est pas obligé, forcément, de se souvenir de ces images. C'est comme un processus de digestion. Alors, je vais être scandaleux et je vais vous donner ma conception du travail de rêve qui s'oppose à celle du rébus. Alors, je vous dis tout de suite, comme je ne suis pas quelqu'un de très connu, je vais me servir d'un argument d'autorité. Parce que vous allez dire n'importe quoi. Il se trouve que quand j'ai élaboré cette idée-là, j'étais un peu inquiet parce que c'est la théorie suivante. Il y a l'idée que finalement, le rêve servirait à digérer, introjecter pour devenir soi-même, de même que pour faire grandir son corps, on mange et on digère ce qu'on a mangé et l'alimentation nous rend, fait grandir notre corps, en tout cas l'entretien. L'idée que tous les événements de la vie, qu'ils soient agréables ou traumatiques,
on n'a pas le temps de s'en occuper pendant la journée, parce qu'on est pris par autre chose. La nuit pourrait se faire ce travail de digestion. Quand on est pédant et psychanalyste, on dit d'introjection, c'est une façon de dire de digestion psychique, qui va dans le sens de devenir soi-même. De même qu'une bonne alimentation entretient notre corps, et quand on est enfant, le fait grandir, cette digestion serait une forme de croissance psychique. Dans le meilleur des cas, quand cette digestion marche bien, il n'y a pas beaucoup de déchets. Alors j'en arrive à dire que les rêves, c'est comme les selles. Le gastro-entérologue, quand vous avez des troubles digestifs, quelquefois, il vous propose d'analyser vos selles. Et il vous dit qu'est-ce que vous avez mangé, et puis on va voir ce que vous avez mangé et ce qui sort dans les selles. Ce n'est pas très ragoûtant comme affaire. Mais et en comparant ce qui sort, l'analyse des selles, et ce qu'on a mangé, le gastro-entérologue a la capacité de dire quelle est la partie de la digestion qui est perturbée. Je fais cette hypothèse qu'au fond, c'est ce qui se passe, que le rêve a cette fonction d'introjection, de digestion psychique, et donc de croissance psychique. Le rêve, finalement, contribuerait à notre devenir soi-même. Alors, après avoir écrit cet article, j'envoie mon article à M. Laplanche, que je connaissais, avec qui je travaillais un petit peu. Je lui envoie l'article. Bien sûr, j'avais fait un exposé et il y avait un certain nombre de collègues qui m'avaient dit quand même, Jean-Marc, tu pourrais éviter de comparer le rêve à de la merde parce que dans un lieu de psychanalyste, essaie de trouver autre chose, quoi. Ça ne va pas. Freud a dit que c'était des textes sacrés et toi, tu dis que c'est des selles. Bon. Alors, j'envoie mon texte à Jean Laplanche, avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant quelques années. Et il m'appelle quelques jours après. Il n'avait pas l'habitude. Il m'appelle au téléphone. Il me dit, tu peux, j'ai lu votre texte. Est-ce qu'on peut en parler? Je dis oui. Il me dit, bon, écoutez, moi, je suis d'accord sur l'essentiel. J'ai écrit pas mal de choses qui vont tout à fait dans ce sens-là. Vous en rajoutez un peu autre chose, d'un point de vue. Mais enfin, grosso modo, ça correspond à ce que je pense. Et je lui dis, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous avez été choqué par la métaphore du gastro-entérologue? Non, pas du tout. Gardez-la, surtout. C'est très clair. Ça dit bien ce que ça veut dire. Et ça explique que, au fond, ne prenons pas le rêve comme un message mystique adressé par une instance supérieure qui serait l'inconscient, comme les sauvages pensaient que c'était Dieu qui s'adressait à eux. Mais en effet, analyser ce qui n'est pas digéré, peut relancer la digestion. C'est pour ça qu'il y a un va-et-vient en analyse entre les rêves que nous amènent nos patients, le travail que nous faisons sur ces rêves avec eux, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la recherche des sources, et puis le fait qu'à partir de ce travail que nous faisons en analyse, éveillés, là ils sont éveillés sur le divan, peut-être qu'ils vont faire d'autres rêves. Et il y a une sorte de va-et-vient entre le travail psychique que nous faisons, encore une fois, d'analyse et non pas d'interprétation, d'analyse des matériaux du rêve, et petit à petit, en effet, ils sont moins perturbés par les rêves. Ces gens qui font beaucoup de rêves, et ces rêves les encombrent, c'est pour ça que je suis d'accord avec la théorie de Crick, figurez-vous. Et alors, il se trouve tout à l'heure, vous l'avez dit, alors la théorie de Crick, c'est incroyable. Ce type, j'ai vu sur Nature, son article, c'est pas comme moi, fait 3 pages. 3 pages, de 111 à 114. Et il se trouve que Michel Jouvet a lu, en effet, cet article de Crick, et il lui dit, mais c'est incroyable ce que vous dites. Il n'était pas d'accord, hein, Michel Jouvet. C'est incroyable ce que vous dites. Est-ce que vous savez qu'il y a un auteur allemand qui s'appelait Monsieur Robert, qui, en 1886, a fait un petit texte de 50 pages, qui n'a jamais été traduit, ni en français, ni en anglais. Je l'ai fait traduire par quelqu'un pour le publier, qui dit, avant Freud, qui dit la fonction du rêve, c'est une fonction excrétrice. Il faut éliminer les pensées qui ont été tuées dans l'œuf. Les pensées qui ont été tuées dans l'œuf sont éliminées au cours du rêve, sauf que il fait l'hypothèse de cette excrétion, c'est le mot qu'il emploie en allemand, l'excrétion de ce qui n'est pas bons, notamment tous les éléments désagréables de la vie quotidienne, sans qu'il oublie de dire que la fonction de la digestion, ça n'est pas de produire des sels. Que penseriez-vous d'un gastro-entérologue qui dirait « à quoi sert la digestion ? Ça sert à chier ». Mais non, la digestion, ça sert à digérer et à se construire. Et puis, ce qui n'est pas utile est éliminé. Ce qui fait que la théorie de Crick, avec laquelle, en effet, Michel Jouvet n'est pas trop d'accord, en effet, c'est vrai que... Alors, ce Robert, c'est incroyable. On ne connaît même pas son prénom, W. Robert. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Ça n'a jamais été traduit. Mais il est vrai que Michel Jouvet est tombé sur ce texte et dit quand même, il y a là quelque chose. On s'interrompt là.
Merci beaucoup. Pour qu'on ait un peu le temps pour les questions, mais c'est surtout, je voulais donc excuser Élise Grand-Georges qui n'a pas pu être là, mais qui en revanche m'a envoyé un texte que je vais vous lire, qui est assez court, pour un peu résumer ses travaux et que vous ayez peut-être une autre ouverture. Donc Élise Grand-Georges mène une recherche en histoire de l'art sur un art dit psychédélique, soit un art qui entretient des rapports avec l'expérience de substances psychoactives dites hallucinogènes ou psychédéliques, et elle est rattachée à l'Université Paris-Nanterre. Donc l'histoire de l'art véhicule des imaginaires, parfois purement artistiques et littéraires, parfois scientifiques. Le rêve est un de ces sujets qui a nourri la création. En France, cette histoire de la représentation du rêve se construit indéniablement au XIXe siècle, avec d'une part ceux que l'historienne Jacqueline Carrois, et je vous le signale, elle sera là samedi à Lusignan pour parler justement des rêves au XIXe, a pu nommer les savants rêveurs, et d'autre part les artistes. L'étude de l'iconographie du rêve suppose d'explorer les rapports art-science, comme le montrait encore récemment l'exposition consacrée à Sigmund Freud au musée du judaïsme. Bien que la notion soit très largement critiquable, le rêve constitue comme les états induits par des substances psychoactives, ce qui a pu être nommé par exemple chez Georges Lapassade un EMC pour état modifié de conscience. Au mi-temps du XXe siècle, et alors que les études expérimentales sur cette catégorie de drogues dites hallucinogènes battent leur plein, l'équivalence entre l'état induit par ces drogues et l'état de rêve est pensée. Les artistes peuvent alors se fonder sur des travaux scientifiques pour conclure à un fonctionnement neurophysiologique typique du cerveau rêvant ou d'un cerveau sous l'épée d'un hallucinogène tel que le LSD. C'est ainsi qu'un certain nombre d'artistes ont porté un intérêt spécifique pour les ondes dites alpha. L'électroencéphalogramme nourrit dans ces années-là de nombreux imaginaires artistiques. Certaines propositions artistiques qui s'inscrivent par ailleurs dans des esthétiques participatives tentent par exemple d'induire chez le spectateur un état modifié de conscience. L'usage du flicker, donc qui est un flash stroboscopique dans des dispositifs immersifs ou le cinéma, constitue un exemple. Et donc là, nous n'aurons pas le temps parce que je veux vraiment laisser le temps de discussion avec vous, mais elle m'avait envoyé le lien d'un film que vous pouvez trouver sur YouTube de Tony Conrad qui s'appelle Flicker, qui date de 1966 et qui montre justement ces tests-là. Donc que je vous invite à regarder. Et donc, pour terminer, elle a participé, Élise Grand-Georges, à la fondation de l'association nommée la Société psychédélique française, qui vise à faire de la médiation scientifique et culturelle sur la recherche liée aux substances psychédéliques, tant dans ses dimensions historiques que dans ses dimensions contemporaines, puisqu'actuellement, que ce soit en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou en Israël, les études expérimentales sont relancées sur les potentialités thérapeutiques de telles substances. Donc l'association organise des projections, des conférences et des journées d'études. Vous pouvez aussi, pareil, trouver les informations sur Internet. Voilà, je tenais encore à vous remercier. Et je pensais, par rapport à la fois au manque de recherche ou aux nombreuses hypothèses, de ce que Freud a nommé l'ombilique du rêve, c'est-à-dire que lui-même part du principe qu'il y aura toujours une part de mystère, d'insoluble dans les rêves. Donc, je vous laisse la parole... à vous pour des remarques ou des questions. Toujours la première question qui est plus compliquée.
Je veux peut-être initier ça de manière assez rapide en disant que finalement, on se retrouve tous les deux depuis tout à l'heure. Parce que moi, je veux bien accepter que la théorie à la fois de Francis Crick, mais aussi la théorie d'activation synthèse se rejoignent, à savoir que le cortex, bon, je suis obligé de parler du point de vue mécanistique, c'est ma fonction, que le cortex va recevoir pendant le sommeil énormément de stimuli venant du pont, mais ces stimuli, ça vient d'où ? C'est l'histoire personnelle, c'est ce qu'on a vécu la veille, c'est ce qu'on a vécu il y a une semaine, c'est ce qu'on a vécu pendant son enfance. Il va essayer de tirer une information à partir de là, parce qu'il faut qu'il comprenne ce qu'il est en train de recevoir. Et c'est très compliqué, surtout qu'il y a les régions du cortex qui sont responsables du raisonnement, qui sont complètement éteintes. Et là-dessus, si on peut coupler ça avec l'idée de Crick, dire que la fonction du rêve n'est que pour éliminer les déchets, donc les débris cognitifs, en tant que uniquement l'élimination, ça ne me convient pas. Mais in fine, à la fin, la fonction, ce n'est pas d'éliminer, c'est de digérer. Et donc de digérer, qu'est-ce qu'on digère ? On récupère les nutriments. On récupère ce qui est intéressant. Et ça, je suis tout à fait prêt à l'accepter, à savoir que les rêves sont là pour faire un tri. Pour faire un tri des événements que nous avons connus et leur donner peut-être un sens. Que peut-être, alors, les psychanalystes peuvent appeler l'inconscient.
Juste une phrase de plus. Vous voyez, on aboutit à une drôle de chose. C'est que j'arrive, je fais une critique de Freud, moi, psychanalyste, et lui, il en arrive finalement à partir, lui, pardon, M. Jaber, il en arrive à partir de notre discussion d'être en désaccord avec son maître Michel Jouvet, puisque Michel Jouvet n'était pas d'accord avec la théorie de Crick. Il n'était pas d'accord avec lui. Il avait une autre théorie qui était très intéressante sur la fonction du rêve, dont on n'a pas le temps de parler. Mais donc, il arrive finalement à être en désaccord avec son maître, enfin celui qui a créé la discipline dans les un collègue. Ou enfin, c'était quand même celui qui a inventé le sommeil paradoxal. Hein. Finalement, on arrive à condition de ne pas camper sur des positions polémiques. Voilà. Et il est évident que le grand psychanalyste dont je parle, Jean Laplanche, il y a beaucoup de gens, quand il disait ça, qui disaient il est temps qu'il prenne sa retraite, hein, qui n'étaient pas trop d'accord avec lui. Et c'est plutôt un courant minoritaire qui défend la position que j'ai expliquée très rapidement.
Maintenant, j'ai une petite sensibilité freudienne, parce que quand j'étais étudiant, j'en raffolais. Hein.
Mais de quel Freud ? Parce qu'il y a tant de Freud.
Vous avez beaucoup parlé que les rêves sont liés à l'histoire personnelle, soit récente ou plus ancienne. À ce moment-là, comment on peut expliquer qu'il y ait des rêves qui soient relativement communs à certaines personnes, comme par exemple rêver de voler, rêver de perdre ses dents, rêver de faire certaines symboliques ? Comment on interprète ces symboliques-là à ce moment-là ?
C'est plutôt toi.
Ben, parce que j'ai été pressé et je n'ai pas beaucoup développé la question des sources somatiques. Alors c'est amusant ce que vous racontez parce que figurez-vous, il y a une histoire qui se passe là-dedans. Un jour, il y a un psychanalyste qui fait un exposé dans la petite société de Freud et il raconte en effet, chez un de ses patients, un rêve de vol. Un rêve de vol, rêve typique. Voilà, hein, sur les sources corporelles. J'ai parlé des rêves diagnostiques, mais je n'ai pas parlé de ça. Et ce psychanalyste dit... voilà, mon patient, il a rêvé qu'il volait. Et moi, mon hypothèse, et à l'époque, on n'avait pas découvert ça, mon hypothèse, c'est qu'il était en érection. On n'avait pas découvert à l'époque que tous les gens qui rêvent sont en érection en période de sommeil paradoxal, sauf des gens qui sont malades. Mais absolument, hein, il confirme. Et alors ça a été une découverte. Michel Jouvet était un peu embêté parce que ça avait l'air de donner du crédit aux psychanalystes. On est en érection quand on rêve. Bon, c'est plus compliqué. Mais donc, ce psychanalyste dit, voilà, ben moi, je pense que l'interprétation de ce rêve, c'est l'érection, et il pense qu'il s'envoie en l'air. Et il fait le lien entre l'érection, donc quelque chose qui vient du corps, et puis un rêve de vol, le rêve typique de vol. Et Freud est furieux, il lui dit, ça n'a rien à voir, parce que vous mélangez deux choses que j'ai pris bien soin de séparer. Remettez la première, hein. Il ne faut pas confondre les matériels et les sources du rêve et le sens et l'interprétation du rêve. Il ne faut pas confondre les deux. Et il a tort, à mon avis. Parce que prétendre qu'on peut interpréter les rêves sans se soucier des sources, sans se soucier de tout ce dont on a parlé en plus, ce n'est pas possible.
Alors donc, ça répond, hein, en effet, il y a des rêves typiques. Il est possible que les rêves typiques soient en rapport avec certains états physiques. Et encore une fois, à l'époque où ça se passe, ça a été découvert en 88, je crois, on ne savait pas qu'il y avait une érection, y compris chez les femmes, hein, y compris chez les femmes. C'est plus difficile à tester chez les femmes que chez les hommes, mais les neurophysiologistes ne reculent devant rien. Ils mettent des électrodes là où il faut.
Chez les femmes aussi, absolument. Hein,
donc, peut-être que les rêves typiques sont en rapport, en effet, avec ce qui est habituel chez l'être humain.
Mais pour nous, c'est une fonction physiologique.
Bien, oui. Oui.
Je voudrais juste, j'ai deux petites questions par rapport au somnambulisme. Vous avez dit tout à l'heure que la fonction qui nous permet d'agir est inhibée. Qu'est-ce qui se passe quand on agit réellement? Et deuxième question, les rêves récurrents. Donc là, je ne sais pas.
Alors, pour le somnambulisme, déjà, vous l'avez compris, le sommeil n'est pas ma spécialité. Donc je vous invite à, encore une fois, venir écouter le spécialiste local qui est le professeur Xavier Drouot. Mais le somnambulisme, ce que je sais en tant que neurologiste, s'observe surtout chez les jeunes enfants. Avec la maturation du cerveau, ce phénomène-là disparaît. Moi, j'ai eu des enfants et effectivement, chez les deux, ils ont été somnambules, mais somnambules de manière impressionnante. Hein. Je pense que vous avez tous vécu ça. C'est une fonction qui disparaît. Elle est liée à la maturation du cerveau. Et de fait, justement, les régions du cerveau qui doivent inhiber les muscles, probablement pendant le sommeil paradoxal, elles ne fonctionnent pas encore très bien. C'est l'explication la plus mécanistique que je peux donner. Et la deuxième question, c'est les rêves récurrents. Je vais laisser mon collègue répondre à ça. C'est peut-être que la digestion n'est pas terminée. Hein, si je peux me permettre de...
Non, moi, je préfère parler du somnambulisme. Parce que...
Ah, c'est génial. C'est comme ça depuis 6 heures. Donc...
Non, parce que le somnambulisme, très d'accord avec ce qu'ont découvert les neurobiologistes, il n'a pas tout dit parce qu'il est modeste, il n'a pas dit que ce qu'ont découvert les neurobiologistes, c'est que le somnambulisme intervient non pas pendant le sommeil paradoxal, mais un peu avant, pendant le sommeil lent, pas pendant le sommeil paradoxal. On va dire, au lieu de rêver, l'enfant se lève et se met à déambuler dans la maison. Et il dit à juste titre, c'est vrai que cliniquement, quand je dis à juste titre, moi je suis un clinicien, c'est rare, mais ça existe quand même, qu'un adulte reste somnambule. Par contre, ce que je peux apporter comme témoignage clinique, c'est que très souvent, quand j'ai affaire à des patients qu'on appelle onirhoïdes, c'est-à-dire que c'est des gens qui rêvent tellement que leurs rêves débordent. Ils ont, je l'appelle les états oniriques ou onirhoïdes, que les psychiatres non psychanalystes confondent avec des hallucinations. C'est simplement des rêves éveillés et ils arrivent à confondre la réalité qu'ils vivent et puis une sorte de rêve éveillé, mais ils n'ont pas conscience que c'est un rêve éveillé. Bon. Donc, ce qu'on appelle les états onirhoïdes qui se rencontrent en particulier dans les cas d'hystérie grave. Bon. Eh bien, moi, dans les cas où j'ai eu à traiter comme ça des personnes en analyse qui souffraient d'hystérie grave, avec des fois tout d'un coup, la personne vraiment dans la salle d'attente avait une sorte d'état onirhoïde. Elle arrivait furieuse parce que dans la salle d'attente, elle avait cru quelque chose qui était complètement délirant, enfin, pas délirant justement, mais un cauchemar. Eh bien, ces personnes, le plus souvent, quand je les écoute pendant pas mal d'années, étaient des gens qui, dans l'enfance, étaient soumis au somnambulisme. Et comme si cet état onéroïde, c'est-à-dire le débordement d'un excès de rêve, là où le sommeil ne contient plus le rêve, le sommeil ne garde plus les rêves, chez beaucoup de mes patientes, surtout des patientes, il faut dire, les enfants somnambules étaient devenus oniriques ou oniroïdes. Hein? Donc il y a quelque chose qui s'arrête. Parce qu'en effet, le sommeil, c'est le gardien du rêve.
Enfin, la quasi-totalité des enfants font un peu de somnambulisme.
Un peu, mais enfin, il y en a plus que d'autres. Hein. Il y en a plus que d'autres. Je vais vous raconter l'état onirhoïde de cette dame. Elle est dans la salle d'attente. Et je la reçois un peu en retard. C'est pas bien, mais enfin, 5 minutes de retard. Elle entre furieuse. Dans la salle d'attente, il y a une porte qui donne sur une chaudière, une chaufferie, une chaudière, où il y a un débarras, et cette porte est fermée, évidemment. Et elle rentre dans la salle d'attente et puis elle me dit, j'ai compris, derrière cette porte,
c'est là que vous pendez toutes les femmes que vous avez tuées. Y a derrière, toutes les femmes sont là, pendues. Et puis, c'est terrible parce que je me sens en danger. D'ailleurs, il y a un couteau sur votre bureau, c'était un coup de papier. Je lui dis, installez-vous, mettez-vous sur le divan et expliquez-moi ce qui se passe. Et elle me raconte ça, je lui dis, je pense que vous avez fait une sorte de rêve parce que vous étiez furieuse contre moi, parce que je vous ai reçu en retard, ce qui n'est en effet pas bien. Et vous avez fait un cauchemar. Et c'est l'histoire des barbes bleues. C'est vrai que j'ai les yeux bleus. En l'espace de quelques minutes, elle s'est calmée. Elle m'a dit, bah oui, c'est vrai, je dis n'importe quoi. Et puis, la séance est terminée dans le calme. Elle a fait un cauchemar. Alors, est-ce qu'elle dormait ou pas dans la salle d'attente? Je n'en sais rien. En tout cas, elle ne dormait pas suffisamment, puisque ça s'est fixé sur cette porte qui existe, en effet, et où, en effet, il y a un débarras. Je lui ai dit, vous savez, la prochaine fois, je vous autorise d'ouvrir la porte. Vous verrez qu'il y a un débarras, il y a une chaudière, il y a des outils, enfin, tout ça. Il y a toutes sortes de choses, sauf des femmes pendues.
Moi, j'aurais une question. Vous avez tout à l'heure parlé de rêve et cauchemar. Et justement, c'est comment on dissocie les deux? Comment on parle des deux? Pourquoi il y a cette distinction?
Alors, je vais vous dire ma façon de voir les choses, hein, mais qui est assez partagée. Hein, ce n'est pas paranoïaque. Nous sommes amenés à penser que le cauchemar est un rêve qui échoue. C'est un rêve qui échoue parce qu'en effet... Il y a eu des éléments traumatiques. Dans le cas de cette dame, ben, c'était traumatique. Je l'avais reçue avec 5 minutes de retard, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Enfin, ou 10 minutes de retard, ce n'est pas trop dans mes habitudes. Donc, il y a eu cet élément traumatique. Elle a fabriqué un rêve. Elle a commencé à fabriquer un rêve, éveillé ou pas, je n'en sais rien, qui, en effet, est très pompé. Alors, vous voyez, quand vous disiez les rêves typiques, c'est quand même ça ressemble quand même à l'histoire de Barbe Bleue, cette affaire-là, quand même. Hein, parce qu'on n'a pas le droit d'aller voir... Là où c'est caché, et là où c'est caché, il y a des femmes tuées et ensanglantées. Donc ça ressemble beaucoup à ça. Elle a fabriqué ça. Elle n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à la fin du rêve, ou peut-être que j'aurais été arrêté par la police qui serait venue m'arrêter et qui l'aurait vengé. Voilà. Elle n'a pas été jusqu'au bout du rêve. C'est-à-dire qu'elle est restée dans ce que le rêve a de traumatique pour elle. Elle est restée là-dedans. Parce que je suis venu la réveiller, je suis venu la chercher. Elle n'a pas fini son rêve. Un cauchemar est un rêve qui échoue. D'une certaine manière, si, comme nous le pensons, tous les rêves partent d'un élément micro-traumatique, quand ça aboutit, ça se renverse. Et moi, j'ai été amené à compléter la phrase de Freud qui dit « Tout rêve est un accomplissement de souhait ». Je me suis permis, en le démontrant, hein, j'ai pris quelques pages pour le démontrer, je me suis permis de compléter la formule en disant « En fait, après complète analyse, tout rêve est un accomplissement de souhait, de vengeance. De vengeance. Quand ça réussit, c'est la vengeance. Votre patron vous a fait une réflexion très désagréable. Ça a fait un rêve où vous dites, il est bien comme mon père. Mon père était épouvantable, il me disait des réflexions désagréables. La fin du rêve, c'est que de toute façon, papa est mort et je vais pouvoir hériter. Ou mon patron est crevé et va me donner sa place. C'est-à-dire que le renversement de quelque chose de très désagréable, en son contraire, c'est-à-dire un souhait qui aboutit. Hein. Voilà, donc le cauchemar, on s'arrêterait à mi-chemin. On répéterait de façon répétitive, en effet, l'aspect traumatique. C'est le cas dans les névroses traumatiques ou les états de post-traumatique. On répète la chose traumatique et on n'arrive pas à le renverser pour le digérer.
Une toute dernière, avant de clore la soirée. En général, j'aime bien dire une toute dernière, parce qu'il y en a 5 ou 6 après. Mais ça sera la vraie toute dernière.
Bonsoir. Moi, j'aurais juste voulu savoir si c'est vrai qu'on ne peut pas rêver de notre mort, vraiment le moment où on meurt, et si oui, pourquoi?
Ça, c'est clairement pour toi. Hein.
Où est-ce que vous avez trouvé qu'on ne peut pas rêver de sa mort?
Oui, déjà.
déjà.
Bah, j'en ai entendu parler et moi-même, j'ai jamais réussi. J'ai rêvé des fois de me noyer ou quoi, et jamais vraiment du moment où je meurs, ça s'arrête avant.
Non, je vous taquine, mais gentiment. Non, mais je vous taquine gentiment, mais c'est parce qu'on raconte, on répète des choses comme ça et on les transforme un peu. Alors, je pense que ce que vous dites reprend une idée de Freud qu'il n'y aurait pas de représentation de la mort dans l'inconscient. Freud dit qu'il n'y aurait pas de représentation de la mort dans l'inconscient. Ce qui n'est pas, on ne peut pas rêver de sa mort. On peut très bien rêver qu'on prend une balle et puis pouf, on meurt.
Et ça nous réveille.
Et ça nous réveille. Ou alors, on rêve qu'on est plus fort que les autres et qu'on a ressuscité. Ou alors, ça nous réveille. Si ça nous réveille quand on est mort, c'est un cauchemar. Si ça nous réveille alors qu'on vient de découvrir grâce à ça, comme tous les super-héros qui un jour découvrent leur super-pouvoir, ben moi, je suis immortel. Voilà. On peut en effet faire... Et le rêve est réussi à ce moment-là. Le rêve est mégalomane, bien sûr. Alors, maintenant, si j'essaie de penser en neurobiologiste, la mort, c'est un concept abstrait. C'est un concept abstrait et il n'y a pas d'image pour ce concept abstrait. Donc, en effet, on peut comprendre que, on peut rêver d'un cadavre. On peut rêver d'un cadavre, on ne s'en prive pas. Mais on ne rêve pas de la mort en tant que concept abstrait. Les concepts abstraits doivent passer par la régression formelle qui fait que ça doit être donné par des images. Donc, ce n'est pas idiot de la part de Freud de dire qu'il n'y a pas de représentation de la mort dans l'inconscient, puisque dans l'inconscient, il n'y a que des représentations sensorielle. Ça nous a beaucoup intéressé quand il nous dit, quand on est aveugle, on va s'occuper des autres sens, on va rêver avec les autres sens. Alors, c'est amusant parce que tu disais sensoriel, mais la vue aussi c'est sensoriel. C'est les autres sens. Ils vont utiliser les autres sens. Mais c'est vrai que nous, on a plutôt tendance à privilégier, enfin nous, les gens ordinaires, on a tendance à privilégier plutôt les images visuelles, mais pas seulement. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas où j'étais, je ne voyais rien, mais ça sentait l'odeur de la maison de ma grand-mère. Et ils n'ont pas forcément une image de la maison de ma grand-mère. Hein? Voilà, donc les concepts abstraits, il faut les traduire en images. C'est pour ça que les peintres sont très proches de l'inconscient, ils pensent en images. Alors que nous pensons un peu plus avec des mots, et donc nous agitons des concepts abstraits.
Moi, finir la soirée avec l'odeur de la maison de grand-mère me convient parfaitement bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie.
Merci à tous les deux. Et j'annonce très rapidement les autres événements à venir. Donc samedi à 16h à Lusignan, on a une après-midi, début de soirée, sur les rêves au passé, du Moyen-Âge jusqu'à l'entre-deux-guerres. Ensuite, le mardi 29 à Dissé, à 20h30, avec l'anthropologue Barbara Glozeski sur les rêves aborigènes. Voilà. Et la dernière soirée, c'est le vendredi 1er février, les rêves politiques, les rêves de lutte. Là, on sera en plein rêve éveillé. Et après, vous avez tout le reste de la programmation sur le rêve à découvrir dans notre programme. Merci beaucoup, bonne soirée.